Bon, les potes, je crois qu'on y est. On est le 14 avril 2024. Il y a 7 jours, je franchissais la ligne d'arrivée du marathon de Paris, qui était le résultat de 4 mois de prépa. Donc c'est bon, là, ça fait 7 jours, j'ai fini de pleurer toutes les larmes de mon corps. J'en reparlerai après, mais c'était assez inattendu, du moins le résultat que ça a produit sur moi. Alors, faut être honnête, je le démarre pas pareil que les autres épisodes, celui-là, parce que j'ai un peu la pression, en fait. Vous allez le découvrir tout au long de cet épisode, puisque je vais vous raconter pas mal de trucs aujourd'hui. Ça a été une expérience assez forte, que je vais vous raconter en 3 actes. D'abord la prépa, puis la course, et puis l'après-course. Et j'ai une grande peur avec ce podcast, c'est de pas réussir à vous retransmettre l'intensité du moment. Je sais que dans tous les cas, c'est une peine perdue, ce sera impossible. C'est comme la différence entre vous décrire ce que c'est de prendre une patate dans la gueule et recevoir une patate dans la gueule. Donc, j'ai pas cette vocation-là d'essayer de faire comme si vous aviez passé la ligne d'arrivée du marathon. Mais par contre, j'ai quand même envie de vous décrire ça de la façon la plus précise possible parce que c'était bien plus que ces 42 km-là. Du moins, je l'ai vécu assez fortement, et il y a des raisons un peu à ça que je vais vous détailler. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé ce podcast, en fait, Retoutée de Mylène, en même temps que le démarrage de mon attrait pour le running. Donc, pour moi, en fait, ces deux choses-là, dans mon cerveau, elles sont associées au même moment de ma vie, et donc j'ai vécu les deux ensemble. Hein. Vous prenez, depuis les premiers épisodes, en fait, du podcast, j'ai commencé à vous parler du début, en fait, vous avez tout depuis zéro. J'ai fait un road to running, vous avez. Voilà, et mes croyances du démarrage, faut se rappeler quand même qu'au début, je voulais faire un semi sans préparation, c'était le truc le plus idiot de la Terre. J'avais jamais couru de 10 km, j'ai eu ma prépa semi, des trucs réussis, le Paris-Versailles qui s'est un peu moins bien passé, enfin, j'ai tout documenté. Donc, dans ma tête, les deux sont un peu équivalents. Et donc, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une grosse partie des gens qui écoutent ce podcast qui, alors, non seulement aiment le running, mais aussi écoutent ce podcast pendant leur run. D'ailleurs, si vous êtes en train de courir, accrochez-vous, le fractionné est bientôt terminé. Je vais tenter de vous divertir les oreilles. Et j'espère que vous êtes en train de préparer un marathon. Si ça n'est pas le cas, j'espère qu'au bout d'une heure de cet épisode, vous aurez envie. Voilà. Donc, cet épisode marque à la fois la fin de l'arc marathon, mais aussi la fin de la saison 1 du podcast Retour à Emilienne. Ça tombe bien parce que c'est l'épisode 40, ça tombe rond. En fait, il a été marqué par cette double quête. À la fois la volonté de me prouver à moi-même que j'étais capable d'animer un podcast pendant autant d'épisodes, en solo, et ensuite de délivrer cet objectif qui me semblait absolument absurde, qui était de courir le marathon de Paris. Donc, cette course, elle est à l'image de ce que j'ai vécu avec Kodak, ce podcast, etc., et tous les trucs de ma vie. Rien s'est passé comme prévu. Donc, je vais tout vous raconter et essayer de faire un bilan sur ce que j'ai appris sur moi-même en menant avec intensité cette quête-là de ma vie. Voilà, qui, vous savez, en fait. Ouais, j'empiète un peu sur ce que je vais vous raconter derrière, mais si je vous parle autant de running dans ce podcast, c'est parce que je vois ça sous l'angle de l'entrepreneuriat et que il y a énormément de choses que j'ai eu l'occasion de vivre dans le running où alors d'abord dans un premier temps je me suis rendu compte que ça m'aidait sur ma boîte et puis ensuite je me suis rendu compte qu'il y a des trucs tellement stylés dont cette expérience du marathon de Paris là que j'ai vécu, qui m'ont fait me re-questionner de est-ce que, en fait, finalement, c'était grave, est-ce qu'on avait quelque chose à foutre que le running apporte quelque chose sur mon aventure business? Et donc, ça m'a refait questionner un petit peu tout ce que je vous racontais sur l'entrepreneuriat. Et en fait, ça m'a conforté dans le fait que la direction que j'avais choisi de prendre, enfin, cette grille d'analyse pour voir la façon dont je vivais mon aventure entrepreneuriale n'était pas si mauvaise que ça. En fait, finalement, ce qui m'intéresse, c'est pas temps de monter une boîte, ça a été juste ma première façon d'entreprendre, entre guillemets, donc de me saisir de moi-même. Et le running, ça a été une grosse partie. Voilà. Donc, avant tout, pour ceux qui découvriraient cet épisode ce podcast par cet épisode, c'est un peu bizarre déjà d'écouter ceux d'avant. Hein. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Si, je pense que vous pourrez quand même comprendre, mais vous ne comprendrez pas le sens que j'accorde à cette quête. Donc, je vous refais quand même l'introduction. Bienvenue dans le podcast Retour à Emilienne. Je suis Théo Lyon, j'ai 26 ans et je suis le fondateur de Kodak, donc il y a un groupe d'agences qui aide les entreprises à grossir en ligne. Donc en 4 ans maintenant, il faut que je corrige mon script, parce qu'on a eu 4 ans le 1er avril, ce groupe a atteint 436 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est un nouveau record aussi, je vous en parlerai probablement dans un épisode standard de Road to 10 Million. On a battu notre record et plus de 62 salariés. Donc l'étape suivante, c'est de l'emmener à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est ce challenge qui donne le nom au podcast. Donc j'ai pour objectif de le faire avant fin 2024. Et dans cette émission, je me sers de mes expériences personnelles, rencontres et lectures diverses pour vous apprendre comment atteindre le top 1% de ce que vous faites. L'idée sous-jacente de ce podcast, c'est que l'entrepreneuriat n'est qu'un prétexte pour se scaler soi-même. Et inversement, vous scalez vous-même à de grandes chances de faire vous un excellent entrepreneur. J'essaie de faire en sorte que vous terminiez chaque épisode en ayant appris au moins une chose qui vous aide à grandir plus vite ou plus loin. Merci d'être avec moi et bienvenue dans l'épilogue, l'épisode final de la saison 1 de Road to 10 Million. Donc aujourd'hui, c'est intéressant de terminer cette saison avec un truc qui n'a rien à voir avec le business, mais vous allez voir que... en fait, il y a énormément de leçons qui sont dans le running qui ne sont pas possibles d'apprendre une quête entrepreneuriale, quoi. Il y a beaucoup de choses. Et en fait, je suis convaincu. C'est pour ça que j'ai du mal, en fait, à le relier. Même toujours, quand j'écrivais ce script, je voyais que c'était pas fini. Je pense que mon cerveau a pas totalement fini de digérer l'expérience. Mais en fait, j'imagine à chaque fois ce scénario où je commence pas à courir. Parce que vraiment, je l'ai pris à la légère, ce truc-là. J'ai jamais eu une vocation en mode, c'était un truc qui me faisait rêver depuis longtemps. Ça a été un concours de circonstances. Je vais vous reparler après. Et je sais tous les trucs que ça m'a permis de vivre, déjà que ça m'a apporté, mais ensuite que ça m'a permis de vivre, surtout parce que on reviendra dessus plus tard, mais c'est que, enfin voilà, la fin sur votre lit de mort, quand même, c'est les seuls trucs dont vous allez vous rappeler, ça va être vos expériences. Et bien, c'est les trucs que ça m'a permis de vivre, je m'y attendais pas. Donc voilà. Et je m'attendais pas du tout, et je suis convaincu que ça m'a permis de scaler certaines parties de mon personnage, de ma personnalité. Voilà. Donc je vais vous raconter cette aventure en trois actes. On va commencer par parler de la prépa. Puis on va parler de la course, puis de l'aftermath, donc le lendemain de la course. Voilà. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, probablement un peu plus court que les autres épisodes, mais bon, je ne vais pas me forcer à faire un truc long pour faire un truc long. Voilà, hop, je prends une petite gorgée. Alors, commençons par parler de la prépa. Donc vous savez, la prépa moi, au marathon en fait, a été faite de façon un peu étrange. Parce que ma déter pour le running en fait vient d'un challenge qui avait été posé par Jordan au début. En fait, c'est marrant parce que c'est pas si noir ou blanc que ça. C'est pas Jordan qui est arrivé et qui m'a chauffé. Je crois que c'est moi qui ai proposé un 10 km à l'entreprise. Et puis ensuite Jordan qui s'est chauffé pour le préparer. Donc moi je l'ai préparé, puis Jordan qui s'est chauffé pour le semi. Et après, pour le semi de Boulogne qu'on a couru. Et après, voilà, et apparemment, c'est moi, en plus, qui l'avais chauffé pour le marathon. J'étais persuadé que c'était lui qui m'avait chauffé pour le marathon, donc je me souvenais même plus. Ça a été, en fait, un engrenage progressif. Donc, Jordan, c'est pour ça qu'il faut aller écouter les épisodes précédents. Si vous savez pas qui est Jordan, il faut, vous taper. Voilà, tous les trucs d'avant, je parle de running. Donc, je me suis engagé dans une prépa marathon que j'ai fait en deux parties. J'ai d'abord fait une prépa 10 km pendant 8 semaines, où je voulais battre mon record personnel au 10K du 14e, ce qui a été fait. J'ai fait 42 minutes 24. C'était cool. Donc pendant ces 8 semaines, j'ai fait beaucoup de vitesse. Et ensuite, j'ai fait 12 semaines de prépa marathon. Donc, c'est là où j'ai commencé à découvrir les sorties longues, ce qui est assez court pour une prépa marathon. Et notamment, c'est important parce que pour la suite de l'histoire, parce qu'il y a quelques sorties longues que je n'ai pas faites. Et je savais avant de commencer la course que c'était mon défaut, les jambes auront du mal à tenir sur la fin. Donc, je me suis engagé dans cette prépa-là. La première partie, en fait, était dure, mais d'une façon assez spécifique. Donc, les 10 km, c'est dur. C'est les fractionnés qui sont durs. T'as envie de vomir et tout. Mais le marathon, en fait, ce qui est dur, c'est la longueur des séances et la quantité, en fait, que tu dois t'infliger. Et notamment, les sorties longues le week-end, quand il pleut. Parce qu'en fait, ta prépa marathon, comme le marathon est en avril, tu l'as fait sur janvier, février, mars. Et forcément, tu te manges le temps qui correspond à cette saison-là, quoi. Donc, en gros. Ma prépa, c'était 4 à 5 séances de running par semaine. J'ai commencé par 4, puis j'ai accéléré à 5, puis j'ai commencé à avoir un petit peu mal au périoste. Ah, donc ça aussi, ça fait partie des prépas marathon. C'est assez classique. Une prépa marathon n'est pas une prépa marathon si tu n'as pas un début de blessure ou alors une blessure. Donc si jamais ça vous arrive, sachez que c'est absolument classique. Et donc ça va falloir être serein, tête sur les épaules et commencer à soigner votre truc et vous dire que ça arrive à tous les gens. Vous n'êtes pas un cas isolé. Oh merde, ma blessure, je pourrais pas courir le marathon. Enfin bon, évidemment, si vous avez des blessures très sérieuses, ça remet ces trucs en cause, mais des petites douleurs, des gènes dont on pense qu'elles vont vous empêcher de courir, il y en a plein qu'on peut traiter. Donc, je passe à 4, puis 5, puis 4, puis re-5, suite à un engrenage encore une fois avec Jordan, que j'ai vu courir, que j'ai vu courir fortement. Et pour vous dire, en fait, je pense que je me suis blessé à cause de cette rivalité-là au début, parce que quand je suis passé à 5 séances, bah, j'ai accéléré les allures en plus parce que je voyais son Strava. Strava, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'endroit où tu partages les courses de tout le monde. C'est un journal intime à ciel ouvert dans lequel tu vois les perfs de tout le monde. Et c'est un peu un, on appelle ça, c'est un, comment dire, c'est un peu je vous avais parlé de la slave mentality de Nietzsche. C'est le journal des slaves, Strava. C'est-à-dire, c'est les gens qui passent leur temps à trouver des excuses de pourquoi est-ce qu'ils ont fait le temps qui est marqué sur ce travail, qu'en fait il valait mieux que ça et tout. Il y avait du vent de face et tout. Enfin, tu connais. D'ailleurs, je crois qu'il y a des pages sur Instagram qui existent avec des compiles de même Strava, de gens qui trouvent des excuses à pourquoi est-ce que leur course était de la merde. Donc, il y en a plein. Il y en a des classiques, notamment le fameux qui me fait trop rire moi à chaque fois, c'est quand vous taguez quelqu'un dans un run Strava et vous faites j'étais avec X. Souvent, c'est pour justifier que X court pas très vite. Et qu'en fait, voilà, c'est pas votre vraie allure. Comme si quelqu'un avait quelque chose à foutre de votre travail. Donc, bref, tout ça pour dire que je me suis un peu motivé à courir plus à cause, enfin, grâce ou à cause de lui. Donc, ça a eu des effets positifs, mais un peu des effets négatifs, c'est que ça a réveillé une blessure. Donc, j'ai ralenti. Et c'est là où j'ai passé mes courses travail en privé. Et alors, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai appris à courir pour moi-même. Et c'est un peu perturbé le mental de Jordan aussi. Je sais. Que de plus pouvoir voir mes courses et d'essayer de faire une minute, une seconde de moins sur chaque intervalle de fractionné, il a dû apprendre à courir pour lui-même. Donc je pense que j'ai fait du bien à l'équipe en faisant ça. Donc, cette première marathon, elle commence assez simplement, c'est pas très très intense au début. T'as un mix en fait de trois types de séances. T'as des séances fractionnées qui vont être à des allures que t'es pas censé courir le jour J, mais qui vont être des allures dont type. Alors, je sais pas en fait quel niveau de précision prendre et qu'est-ce qu'il faut que je réexplique. Donc en gros, bon, on va prendre simplement des allures rapides. Il y a plein de noms, seuil, VMA et tout, etc. Ce sont des allures que tu vas courir vite, puis faire une pause, puis recourir vite, etc. Et le but, c'est de travailler la VO2 max, en fait. Donc ton intense. Je vais dire des conneries. Bon, on va s'arrêter là. Donc tu as travaillé la vitesse. On va dire ça. Ensuite, tu as des séances d'endurance fondamentale. C'est d'ailleurs une partie très paradoxale et totalement inverse à l'expérience que j'avais eue de comment m'entraîner, notamment à la salle. C'est que tu as plein de séances qu'il faut faire tout doucement. À la salle, on parle souvent de la surcharge progressive, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois se pousser un peu plus loin. En running, c'est l'inverse. Il ne faut surtout pas essayer en fait, de courir 42 km pour préparer 42 km. Tu dois avoir le gros de ta prépa, donc 60-70% des séances qui sont courues en endurance fondamentale, ça veut dire tout doucement, un rythme où tu peux avoir une conversation avec quelqu'un, ce qui est très perturbant. Et le troisième type de séance, c'est les sorties longues. Donc ça, souvent, ça se fait le week-end. C'est là où tu vas courir des 20, 25, 30 km et ça augmente en fait au fur et à mesure de la prépa. Et ça s'arrête à 30. Donc tu ne cours jamais 42 km pour préparer un marathon. Et d'ailleurs, ça aura son importance dans le récit de la course. Je ne savais pas ce que je vais aller dans cette zone-là. Je l'ai découvert. Donc, progressivement, pendant cette prépa, ça se passe bien. Je me rends compte que je voulais viser moins de 3h30. Moins de 3h30, je trouve que ça fait une allure de 4,59 au kilomètre ou un truc comme ça. 5 au kilomètre. Bref, un truc où je me rends compte que mon allure marathon prévue par le programme Campus que j'avais choisi, j'ai utilisé ça pour toutes mes prépas, je recommande fortement. Donc j'ai utilisé ça pour ma prépa 10K, prépa semi et pour la prépa marathon. Bon, j'ai un peu traficoté les temps. Au début, le temps qui m'était proposé m'allait pas trop, c'était 4,52, c'était cool, mais je voyais que je vais aller un petit peu mieux que ça. Donc j'ai fait tout l'entraînement, toute la prépa en fait avec des allures à 4,46 au marathon. Donc ça aura son importance pour la suite. Ce qui fait que cette allure, j'ai réussi à la tenir sur tous les intervalles. J'ai fait les séances test et tout, ça passait crème. Et j'étais très confiant avant la course. On en reparlera après quand je vous parlerai du moment où j'ai ce que j'ai écrit sur mon cahier d'annonce du plan de course la veille. Et donc j'étais très confiant de réussir à tenir cette allure-là. Donc je fais cette séance, enfin cette prépa, ça se déroule vraiment très bien. Je me sens très confiant. J'ai des passages à vide. À plein de moments, mais en fait c'est plutôt un exercice de régularité le marathon. En fait, c'est déjà des choses dont je vous ai parlé. Enfin, le prépa marathon, c'est tu peux sortir un petit peu des clous, rater une séance ou faire une séance moins intense, mais il faut jamais arrêter. Il faut vraiment jamais lâcher le truc, sinon t'es mort. Et je voulais vraiment courir ce marathon-là. Vous savez, la raison pour laquelle moi je voulais le courir, c'est parce que ça avait du sens dans le fait de faire des trucs durs. C'était ça mon why au début, c'est faire chaque jour des trucs de plus en plus durs. Et donc le 10K, le semi. À la fin, bon, bah, tu vas faire le truc un peu mythique que tout le monde connaît, le marathon, et tu vois si tu es capable de t'infliger cette douleur-là sur cette distance. Donc j'ai envie de faire des trucs durs parce que j'estime que ce que je veux incarner et un peu la maxime de ma vie, c'est montrer par l'exemple. Donc être capable d'être dans une situation où on peut jamais me dire, tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose de plus difficile que toi, tu ne serais capable de le faire. On peut dire que je demande aux gens de faire des choses que je ne sais pas faire, en termes de compétences, mais je fais des trucs plus durs, enfin, je fais des trucs durs dans ce que je sais faire. Et donc, j'ai envie de montrer, par exemple, bon, à la fois, c'est pour les gens dans ma boîte, même si, bon, un marathon, ils s'en branlent, mais c'est juste montrer que, voilà, le CEO n'est pas dans le confort. Et c'est aussi juste pour l'impact global que j'ai envie d'avoir sur les gens. Le truc dont j'ai envie de me souvenir à la fin de ma vie, c'est de se dire, bon, bah, quand je voyais Théo, j'avais un peu envie de me dépasser. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui l'ont eu sur moi, cet impact-là. Et donc, si je peux vous en rendre une petite partie, j'aurais fait mon travail. Donc, cette première marathon, elle se passe bien. Elle se passe bien. Et donc, je m'entraîne beaucoup avec Jordan, avec qui je fais les séances le week-end. Voilà. Donc, on fait beaucoup de sorties longues ensemble. Je me rends rapidement compte qu'il est meilleur que moi. Comment dire? Je n'ai pas trouvé d'autre façon de le faire, mais qu'il est meilleur que moi sur les intervalles à aller en marathon, qui tient mieux. Donc, je commence à me dire que ça va être un vrai challenge. Et c'est aussi un peu pour ça que j'ai passé mes courses en privé sur Strava, parce que je voulais m'entraîner tranquillement, me concentrer sur moi et pas essayer de me dire que mon marathon serait une réussite si je battais Jordan. Et on en reparlera après. Donc, les deux dernières semaines, ensuite, donc, la prépa se passe bien. Je vais avoir une vidéo YouTube qui va sortir sur le sujet, qui va être très détaillée avec toutes les vidéos où je me suis filmé pendant toute la prépa. Donc, ça va être bien mieux expliqué dedans. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail ici sur les trucs. Je vous parlerai après de ce que j'ai appris. Là, j'ai 3 apprentissages sur cette prépa. Les deux dernières semaines avant la course, ça s'appelle le taper. Donc, le taper, ça veut dire l'affûtage. En gros, ce sont 2 semaines sur lesquelles tu vas diminuer l'intensité, entre guillemets. Tu ne vas plus courir des trucs pour te fatiguer de ouf. Tu vas essayer de maintenir le nombre de séances, mais tu vas les courir un peu moins fort. Tu vas moins te fatiguer juste pour que ton corps il soit prêt le jour de la course. Et donc, tu perds un peu de forme, souvent, parce que moins tu t'entraînes, moins t'es fort. Mais le but, c'est d'arriver bien reposé. Donc, ce taper-là, moi, j'ai eu quelques difficultés. La plus grande d'entre elles était que c'était les 4 ans de Kodak. On est parti 3 jours à Marseille. Donc, les 4 ans de Kodak, vous savez comment est-ce qu'on fait les 4 ans? On les fait pas en dry. on les fait pas avec de l'eau plate. Donc, j'ai dû résister à toutes les tentations de type éthanol du week-end et aussi faire en sorte d'aller me coucher tôt. Donc, je vais me coucher à 23h30 à un team building, ce qui est bon. Ça restera dans les annales. Je suis très content de l'avoir fait, mais c'est très original. Surtout quand je sais que le prix que ça m'a coûté ce week-end. Donc, j'espère que, voilà, je sais que ça a beaucoup plu à l'équipe, mais bon, c'était pas pour moi, celui-là. Donc, j'ai réussi à survivre à ce truc-là. Bon, ça a aidé le fait aussi qu'il y ait Jordan qui soit dans le même mindset. Bon, bien qu'il soit un peu moins assidu sur, sur la diète, pas d'alcool. et donc, du coup, voilà, bref. C'est tout ça pour dire que je me retrouve la veille du marathon en mode avec un sentiment. C'est bon, j'ai fait le taf, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai tenu les allures, je sais sur quoi je vais partir, je vais partir sur mon 4.46 et peut-être un... J'avais prévu en fait de partir léger, de partir en mode 4.48 parce qu'il y avait le faux plat des champs qui, je sais, incite à accélérer. Et en fait, j'avais pas compris que partir léger, c'était peut-être partir un peu plus lentement que ça. Ça aura son importance pour la suite. Je vous fais les derniers apprentissages sur la prépa et ensuite je vous raconte la course. Voilà, donc... Cette prépa, elle se passe en fait vraiment bien et j'apprends plein de trucs dedans, notamment 3 que je vais vous partager. La première chose, c'est que j'ai appris à endurer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une prépa, le meilleur verbe en fait pour qualifier ce que tu fais, c'est pas tu te fais mal, c'est pas tu t'apprends la discipline, c'est tu endures. C'est pas juste de la douleur, les séances, c'est que c'est pendant 4 mois en fait. Et donc endurer, je vais chercher l'étymologie. Et donc endurer, c'est pour endurance, hein. C'est pour ça que ça s'appelle la course d'endurance. Ça vient du latin indurare, qui veut dire devenir dur, rendre dur. Et alors, ils mettent ensuite en bas latin, en 2 mots, hein, endurcir son cœur contre quelque chose. Il y a aussi marqué supporter avec constance et fermeté. Et donc, ce que tu apprends cette prépa-là, c'est à rendre, évidemment, la première chose qu'on veut entraîner à endurer, c'est le corps. Parce que 42 km, c'est pas une distance naturelle. En fait, c'est pas un truc qui se court sur un malentendu. Un 10 km, ok, un semi si t'es chaud, mais un marathon, tu fais pas ça sur un coup de tête. Ou alors, tu passes la pire expérience de ta vie. Donc, ce que tu apprends, c'est d'abord à rendre ton corps dur, le faire devenir dur. Mais le vrai truc que tu fais devenir dur pendant cette prépa, c'est ton mental. Tu apprends à endurer et à subir. Et c'est un truc que j'avais pas eu l'occasion de beaucoup faire dans ma vie, dans un contexte auto-infligé. J'ai dû endurer des entraînements de boxe qui étaient terribles, où t'as le coach qui te fait le physique à la fin, debout, burpees, etc. Et tout. Là, tu subis. Tu ramasses. Mais endurer, en fait, se faire endurer des trucs à soi-même, c'est quand même un autre game, parce qu'en fait, à tout moment, c'est plus facile de s'arrêter. Évidemment, tu peux t'arrêter quand le coach te dit t'en es à ton 57e burpees. Mais il y a une plus grosse friction parce que tu sais, il y a t'as les gens autour et tout le bordel. Là, t'es tout seul dans la forêt. Si tu t'arrêtes, personne sera au courant. Sur Strava, t'as même pas besoin de mettre ta course. En fait, il n'y a que toi que tu déçois. Et ça, ça change un truc dans ton cerveau. Ça t'apprend que à ne pas te fool, don't fool yourself. Ne te prends pas pour qui tu n'es pas. En fait, à la fin, tu peux plus te mentir vraiment parce que tes limites physiques, elles sont physiques, tes limites mentales, elles existent. Tu te rends compte que tout existe et que tu n'es pas un surhomme et que tu atteins tes limites. Donc, tu apprends à endurer, c'est-à-dire à te foutre pendant longtemps, donc à la fois en termes de mois, mais aussi pendant de nombreuses minutes, dans des zones où ça fait mal. Et j'ai pas réussi à trouver en fait un truc qui, dans ma vie, m'a permis de reproduire ce genre de contexte, quoi. Ce genre de conditions, vraiment t'es là où tu comptes chaque seconde du fractionné, et tu sais que t'es en train en fait de gagner des points, alors de perdre des points de vie au moment même, mais de gagner des points de mental pour quand t'auras terminé la séance. Donc la première chose, c'est que ça t'apprend à endurer. Je suis pas sûr qu'il y ait... Enfin, la dernière fois que j'ai dû endurer, bah, c'était dans une autre prépa, mais pour le coup, c'était ma vraie prépa. C'était la prépa HEC. Où c'est vraiment le souvenir, mais d'ailleurs, il y a énormément de similitudes, en fait, j'en reparlerai. Mais à la veille de la course, je me sentais vraiment comme la veille du concours. Et donc, parce qu'il y avait des caractéristiques communes, en fait. Quand tu passes plusieurs mois de ta vie, enfin, une partie significative de ta vie sur un rythme qui t'est imposé par le fait qu'il y a une épreuve qui arrive, et qu'ensuite, tout joue sur un instant T. Alors, les concours, c'est sur plusieurs semaines. Là, c'était sur une journée. Mais ça, c'est des conditions qui sont... En fait, moi, ça me frustrait d'ailleurs de ne pas les retrouver dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de match. Je vous l'ai déjà dit, c'est très frustrant pour un compétiteur de ne pas avoir de moment où tu sais si A est plus fort que B, enfin, si tu as atteint ou pas ton objectif. Donc, c'est un truc qui me manquait. Je trouve que ça c'est venu en fait combler le marathon, la palette d'expériences qu'un humain peut vivre et qui, en fait, ne t'est pas offerte par l'entrepreneuriat. C'est surtout ça que je voulais dire en introduction, quand je vous disais que y a pas que des... En fait, je ne cherche pas dans le running que des choses qui vont m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Il y a des choses que j'ai vécues dans le running que j'ai envie de vivre juste parce qu'elles sont bien, quoi. Et je me dis qu'il y a certainement plein d'autres sports dans lesquels il y a des trucs à apprendre, et j'en reparlerai plus tard. Voilà. Donc la première chose, c'est j'ai appris à endurer. Si vous voulez apprendre à endurer, faites une prépa. Seconde chose, j'ai découvert quelle était la difficulté du milieu d'une préparation. J'en avais déjà parlé dans un épisode où je parlais au milieu du trimestre notamment dans le contexte des OKR. À quel point c'était dur, et il y avait une baisse de motivation au milieu parce que t'es loin du début et loin de la fin à la fois, donc il y a plus les encouragements du démarrage, mais il y a plus non plus les enfin la vision de la ligne d'arrivée. Donc c'est très dur au milieu parce que au milieu en fait, c'est là où tout est mis à l'épreuve. Et donc c'est pour ça que c'est important de créer des filets de sécurité pour cette période-là où tu n'auras pas envie. En fait, tu peux fonctionner à l'envie au début et à la fin, à la motivation, mais au milieu, c'est là où tu découvres si tu as de la discipline et des habitudes surtout des habitudes. Vous savez que moi je suis encore plus fan des habitudes que de la discipline, parce que la discipline, bon, ça consomme du carburant. Les habitudes, c'est automatique, c'est des systèmes. Donc c'est là où en fait, j'ai compris ce que c'était des filets de sécurité. C'est des choses qui vont venir te sauver quand t'as pas envie. Et bon, alors la première chose, enfin j'en ai quatre, des filets de sécurité. La première chose, c'est d'avoir un plan très clair, c'est-à-dire écrit sur une feuille. Je fais ça chaque semaine pour pas que tu... Parce qu'en fait, chaque chose qui n'est pas écrite est sujet à, enfin, aux ups and downs du cerveau, quoi. Donc à un moment, il va estimer qu'en fait ton plan, bah, il était trop ambitieux ou il était pas assez ambitieux. Tandis que si tu l'as écrit sur une feuille, tu dis je m'engage telle semaine à faire tel truc, tel truc, tel truc. Et d'ailleurs, la petite fiche d'engagement, c'est un truc que je fais encore aujourd'hui. À chaque fois que je suis dans une période un peu down, je me dis, écoute, bon, quels sont les engagements qui peuvent me permettre de retrouver de la confiance en moi et de passer cette phase un peu dure. Et donc, j'écris deux, trois trucs et je me dis, ok, bon, ma journée est un succès si j'ai réussi à faire ces choses-là. Et à la fin de la journée, tu te couches en te disant, bon, bah, écoute, j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. Et vous savez que la confiance en soi et la réputation que vous avez envers vous-même, donc, ça y contribue fortement. Donc, la première chose, c'est un plan clair. Donc, ce que je faisais, c'est que tous les dimanches, moi, je prévoyais mes séances. Je savais exactement quand est-ce que j'allais m'entraîner et quelle séance j'allais faire. J'étais hyper précis. Je notais le nom de la séance, le fractionné, enfin les intervalles, tout le bordel. Comme ça, je peux pas en fait échanger des trucs en disant ah non vas-y, je vais faire la séance tranquille. Et vous êtes à chaque fois en fait t'es fasciné par les nouvelles excuses que ton cerveau trouve dans ces moments-là. Des nouvelles douleurs, un truc important que t'as besoin de faire. Ah mais tu sais le travail et tout. Mais il va chercher. C'est le mec le plus créatif de la Terre. C'est un cerveau qui a pas envie de faire un truc. Et il trouve des idées de bâtard. Donc, avoir un plan clair, ça permet de dire, bon, bah, écoutez, moi, j'ai dit que j'allais suivre le plan, je me suis engagé. Bon, bah, je le suis, peu importe. Et peu importe qu'il pleuve, qu'il vente, etc. Seconde chose, ça apprend à développer des habitudes. En fait, l'habitude running, elle se prend assez vite. Notamment, si vous arrivez en plus à le faire à des instances régulières, ça s'ancre assez facilement dans le quotidien, notamment la sortie longue du dimanche. Là, ça m'a fait tout bizarre. Enfin, aujourd'hui, on est dimanche. C'est le premier dimanche depuis 12 semaines que je fais pas de sortie longue. et ça me fait chelou. Bon, je vais pas faire genre que j'aurais pu avec les jambes, mais ça fait bizarre et ça fait comme j'ai l'impression qu'il manque un truc, quoi. Il y a une habitude, un truc que j'ai pas fait. La troisième chose, enfin le troisième filet de sécurité, c'est les potes. Et c'est pour ça que l'accountability, je vous en parle tout le temps. D'ailleurs, et je vous en parlerai, hein, je pense, à chaque épisode tant que vous n'aurez pas compris, que il n'y a pas de secret. C'est juste, il faut se rendre responsable des choses et en fait avec des potes. Ça marche bien, des potes qui ont le même objectif que vous. Donc j'ai eu la chance d'avoir Jordan, mais aussi d'autres potes runners qui préparent pas le marathon de Paris, mais qui pouvaient avoir des yeux sur ma prépa. Donc je pense à Guillaume, qui est un autre associé de Kodak, donc le CEO du labo. Et c'est marrant parce que en fait, je croyais beaucoup. Moi, je pense que vous l'avez compris avec ce podcast. Hein, je suis pas le profil hyper sociable. Je suis plutôt un, disons, pudique dans l'effort et dans la douleur. C'est-à-dire que j'ai pas forcément envie de partager un fractionné où je suis en train de souffrir et cracher mes poumons et qu'il y a un mec qui me regarde à côté. Eh bien, j'ai découvert qu'en fait, je préférais partager. En fait, pas sur le moment forcément, mais tous les moments dont je me souviens de la prépa, c'est les moments que j'ai partagés. Je me souviens pas des séances dures que j'ai faites tout seul dans le bois de Boulogne. Je me souviens de quand je suis allé au putain de bois de Vincennes et que j'ai couru 2 heures avec Jordan. Et toutes les séances qui sont en souvenir aujourd'hui, et je sais qu'avec le temps, ça va être encore pire, ça va effacer toutes les autres, eh bien, c'est celles qui sont partagées. Donc en fait, le partage, le fait d'être plusieurs, c'est, je pense, une condition pour que quelque chose rentre bien dans la mémoire. C'est toujours une expérience avec les autres. Et donc les potes, c'est un filet de sécurité. Quand tu t'entraînes pas, bah, tu sais que oui, Jordan, il s'entraîne. Et bah, ça fait une raison de plus. Ça te rajoute quelques petits points qui peuvent te faire aller courir quand tu avais décidé de pas y aller. Et donc, c'est marrant parce que Jordan, en fait, a eu cette double casquette. À la fois, c'était mon pote de accountability, le mec qui me permettait de me dépasser, mais aussi le némésis, c'est-à-dire celui que tu as quand même envie de battre. Donc, et c'est marrant parce que j'ai vu une pub Salomon il n'y a pas longtemps sur YouTube où il disait, et si le but, c'était pas d'être meilleur que les autres, enfin, d'être meilleur que tes potes, mais que tes potes te rendent meilleur. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ce que cette rivalité avec Jordan a réussi à faire. Et c'est, ouais, enfin, donc, c'est pour ça que je vous recommande. Après, de toute façon, je vous ferai un tuto du marathon réussi. Et dedans, bon, bah, spoiler, il y a les potes. Faut le partager. C'est vraiment une partie très importante que j'ai pas vu beaucoup revenir dans toutes les vidéos marathon que j'ai eu l'occasion de regarder. Vous imaginez bien que j'ai fait le tour de YouTube. Je les ai toutes trouvées. Donc, c'était mon troisième filet de sécurité. Le quatrième, c'est d'avoir un pourquoi puissant. Le pourquoi, c'est important. En fait, c'est pas très important au début, c'est pas très important à la fin, mais c'est très important au milieu. Parce que, vraiment, il y a des moments où tu ne sais, où c'est flou, tu l'oublies. Et en fait, tu découvres au fur et à mesure si ton pourquoi il est assez puissant. Et c'est pour ça que j'ai pas mal de manque d'assiduité à la salle dans ma vie. C'est parce que j'avais cette première motivation qui est être beau gosse. En fait, avoir un corps stylé, tu vas pouvoir retirer. Bon, les motivations classiques de n'importe quelle personne qui commence la salle, tu veux être beau gosse, et voilà, c'est tout, tu vas avoir des gros muscles. Ce truc-là, ça tient pas très longtemps pour une personne qui est, disons, normalement constituée et qui est pas un narcissique, quoi. Alors, je dis pas que je suis pas narcissique, j'en sais rien, hein. Mais en tout cas, disons que j'ai pas trouvé assez de motivation dure pour aller m'entraîner quand j'avais pas envie, juste pour être beau gosse. ça marchait pas. Et donc c'est pareil avec le running, c'est que donc en fait la leçon d'ailleurs, juste pour boucler là-dessus, parce que peut-être vous demandez par quoi est-ce que j'ai remplacé ça, cette motivation, je l'ai juste remplacé par l'équilibre et la performance, le soulever de poids et aussi la volonté de pas être une ficelle. C'est surtout ça. Moi, j'essaie de m'éloigner je n'ai pas envie d'être une ficelle. C'est aussi d'ailleurs toujours, ça a été mon dilemme avec le running toujours, parce que je vois très bien où la performance en course à pied mène physiquement. Donc, mais je suis en train de, voilà, de manière générale c'est le cas. Vous regardez les marathoniens, etc. Ceux qui font les disciplines sur lesquelles je me suis entraîné, ils sont, ouais, c'est comment dire, c'est des sandwichs jambon beurre, quoi. Genre, c'était moi en quatrième, quoi, genre 1m90, 67 kilos. Ce sont des vraies mensurations. J'étais un squelette. On m'appelait le cintre. Non, c'est pas vrai. C'est un autre pote qu'on avait appelé le cintre, mais ça me faisait rire. C'est parce qu'il s'était pété la clavicule et du coup, il avait une épaule un peu vers le haut. On l'appelait le cintre. Bref, j'en fiche de pute. Bref, et oui, voilà, tout ça pour dire, j'ai trouvé un contre-exemple. Il s'appelle Iron Human. Et il a à peu près mon gabarit et il est bien dodu. Donc je pense que voilà, ça sera désormais mon phare pour me dire que je peux continuer la course à pied sans avoir un physique de lâche. Donc, avoir un pourquoi puissant, c'est important, parce qu'on parlait quand même du running et de son pourquoi au début. Et ce qui est intéressant, c'est que cette épreuve-là du milieu de la prépa, elle teste, je trouve, la puissance de ton pourquoi. Ça te permet de t'accrocher, bon, à la fois pendant les runs et aussi pour aller au run. Moi, j'avais un peu peur, en fait, de ce truc-là, parce que mon seul pourquoi, c'était j'ai envie de faire des trucs durs. j'ai envie de faire des trucs durs et d'être une lumière pour les gens autour de moi. Et ce truc-là, c'est pas une motivation qui est... Ouais, la première, c'est une motivation qui est intrinsèque, donc qui me concerne moi. Mais la seconde, c'est un peu une motivation pour les autres. Et je me disais, putain, mais en fait, est-ce que je les veux vraiment, ces trucs-là? Et ça, tu peux pas le savoir avant d'avoir eu un moment dur et d'avoir réussi à te rattraper à cette motivation, enfin, à te raccrocher. Vous voyez, quand vous tombez dans un ravin et vous raccrochez une branche, bah, c'est votre pourquoi. Et si la branche, elle est pas solide, bon, bah, elle se pète et vous tombez. Eh bien, en fait, j'ai réussi. Donc, j'ai découvert non seulement que ces trucs-là étaient importants, pas juste parce que je les disais, mais ça l'était aussi viscéralement. C'était des choses qui me tenaient à cœur, fortement. Et donc, c'est aussi possible, d'ailleurs, que ce soit à ce moment-là que vous réalisez que soit vous, en fait, vous savez pas pourquoi vous courez un marathon et vous arrêtez, soit vous faites évoluer le pourquoi. Vous découvrez qu'en fait, vous pensez que vous le courriez pour la performance, mais en fait, vous le courez parce que, je sais pas, vous avez une revanche à prendre sur un truc. Et d'ailleurs, c'était un des autres pourquoi aussi de ce truc-là, c'est que, encore une fois, je fuyais le fait d'être une merde, hein, d'être un mec qui faisait que des trucs faciles. Et vous savez que ça, c'est le sens de ce marathon, pour moi, c'était beaucoup un flashback il y a un an, ou trois ans de Kodak, du coup, pour le coup. Où j'avais vraiment l'impression, bon, la boîte elle avançait un peu moins, même moi j'allais plus trop, enfin la salle, j'étais plus, en fait j'avais encore cette vision de moi-même, de un mec qui scale, etc. Comme j'ai été les deux premières années de Kodak, mais j'avais de moins en moins de preuves pour avancer, pour dire ouais, je suis comme ça. Regarde, si on m'avait dit ok, pourquoi est-ce que t'es un scaler, bah j'aurais dû réfléchir un peu avant de trouver des trucs. J'avais plus beaucoup à la salle, la boîte était pas forcément en super croissance, j'étais pas super heureux dans le taf que je faisais, donc je partais de ce point-là. Et donc j'avais besoin de me prouver ce truc-là moi-même. Donc j'avais besoin de reconstruire des preuves. Et donc ce truc-là, en fait, a été un gros driver dans le fait d'avancer. Et donc aussi une petite leçon, si jamais vous vivez une aventure entrepreneuriale sur plus que 2 ou 3 ans, vous allez avoir ce genre de yo-yo, je pense. C'est normal et ça peut durer très longtemps. Moi, ça a duré un an d'être du P1. Donc j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de le faire. Et pas juste parce que vous savez, en fait, le marathon, jusqu'à ce que vous le couriez, c'est juste 160 balles que vous avez dépensées sur un site internet, hein. Ouais, tu vas courir le marathon, mais il y en a plein qui le terminent pas. Et en fait, ce n'est pas, même dans la tête d'un préparationnaire en marathon, ça n'est pas réel, ce truc-là. En fait, tu te dis toujours, il y a une grosse séparation, et je me souviens, c'est comme en prépa. Donc, je dis prépa, mais c'est pour prépa HEC cette fois-ci, je vais essayer de préciser à chaque fois pour pas que vous vous embrouillez. En fait, il y a un écran noir après le concours. Et je me souviens très bien, c'est impossible d'imaginer ta vie après le concours, parce que ça fait 2 ans. Vous savez, 2 ans, j'ai fait 4 mois, c'était 2 ans une prépa. Il y a un écran noir, t'es pas capable d'imaginer après. Moi, c'était la même chose. Le marathon, je n'étais pas capable d'imaginer après. Impossible. Et donc, je partais à New York le lendemain. Je n'arrivais pas à me projeter à New York, à dire que j'allais apprécier, etc. Bon, il se trouve que bon, là, j'ai passé 3 jours assez ouf. Et je vous en parlerai dans l'après. Parce que c'est là où j'ai fait ma redescente. Et c'est un point aussi qui est très, très peu décrit dans les vidéos marathon. C'est l'après-marathon. Je vais vous en parler en détail. Et pourquoi est-ce que je vous parlais de ça? Parce que tu n'es pas capable de voir après. Moi, je ne me rappelle plus de pourquoi je vous disais ça. Bref. Bon, écoutez, je ne sais plus où est-ce que je voulais en venir avec ce truc-là, mais bon, en tout cas, c'est une expérience qui est très intense et qui, en fait, arrête le temps autour de toi. Et tu ne vis que pour une seule chose. Même si ma priorité, c'est toujours ma boîte, et en fait, en termes d'heures, je passais la majorité de mon temps à travailler. En fait, si on prenait les 24 heures de la journée, je passe plus de temps à travailler qu'à courir. Mais par contre, dans mon cerveau, il y a le marathon quand tu te réveilles. Quand tu manges, quand tu, en fait, il l'est tout le temps. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que la descente, elle est si terrible. Parce que tout à coup, le truc disparaît. Et ça fait exactement le même phénomène que les gens qui arrivent en école de commerce après une prépa. Ça s'appelle le prépa blues. Et en fait, tu as une perte de sens. Mais bon, c'est pas une fatalité. On va en parler après. Bref. Donc, dépasser la difficulté du milieu de la préparation, très important. Et troisième chose, c'est apprendre à apprécier les mauvaises journées. Et donc, j'ai découvert qu'en fait, c'est un truc dont je vous parle souvent, mais que j'ai redécouvert avec le running. D'ailleurs, je suis toujours super content quand je redécouvre une leçon que je connaissais déjà. Soit par quelqu'un que j'estime, qui dit un truc qui correspond à une pendule, ou un truc que j'avais déjà essayé de formuler du mieux que je pouvais dans un épisode, ou un truc que j'avais déjà pensé, ou alors quand je vis une nouvelle expérience qui me confirme un truc que je croyais déjà. Et donc, vous savez, je vous avais dit, je parlais beaucoup des freelances qui disaient, et je vous disais, en fait, on devrait plutôt leur demander combien est-ce qu'ils ont facturé leur heure la moins chère, au lieu d'essayer de dire, j'ai facturé 500 euros de l'heure. Bah, le running, c'est pareil. En fait, tout le monde est kipchoge quand il fait beau, quoi. Maintenant, il pleut. Et tu descends la température en dessous de zéro et tu forces une personne à faire une séance le matin à 6h30. Et là, on va voir si t'es kipchoge. Et en fait, je trouve que ça dit beaucoup plus. Ça en dit beaucoup plus sur les gens. Les gens les plus expérimentés, c'est les gens qui sont extrêmement bons dans ces mauvais jours, ceux où les autres ne vont pas s'entraîner. Et vous voyez, c'est comme c'est la métaphore du virage, simplement. Tu vois, tu prends une bagnole de Formule 1, tout le monde va vite dans une ligne droite, il n'y a pas énormément de différence entre les bagnoles, enfin, sauf si t'as un truc qui n'avance pas. Et c'est dans le virage, c'est au freinage que la différence elle se fait. Donc c'est sur ce moment un peu dur où faut ralentir, le moment où si la voiture elle sait pas ralentir, elle part dans le mur. Et si elle ralentit trop, elle se fait grailler du terrain. Donc c'est dans les virages que la différence elle se fait. Et le virage c'est l'allégorie en fait du moment dur. Le moment dur c'est le milieu de la prépa. Donc quand il arrive, dites-vous que c'est là que vous creusez l'écart. La vraie définition de creuser l'écart. Et j'ai lu une super citation aujourd'hui dans une newsletter que j'ai trouvé très parlante là-dessus. Je vous ai traduite avec DeepL. La newsletter c'est Farnham Street sur les modèles mentaux, dans lequel il dit. Nous avons tendance à mesurer les performances à l'aune de ce qui se passe quand tout va bien. Pourtant, le comportement des personnes, des organisations, des entreprises, des dirigeants et d'autres choses dans leurs meilleurs jours n'est pas très instructif. Pour trouver la vérité, il faut regarder ce qui se passe dans les pires moments. Voilà. Et donc, je trouve ça très, très, très intéressant parce qu'aujourd'hui, en fait, cette prépa m'a permis de découvrir que le Théo des mauvais jours, je pense que déjà, il nique la mère au Théo des bons jours d'il y a un an. Et en fait, j'ai fait progresser ma baseline. Je trouve ça très cool. Donc, c'est ça. Enfin, bref, c'est très intéressant en termes de force de volonté et de capacité à me faire mal. Voilà. Donc, le bilan de cette prépa, je vous le rappelle, j'étais prêt. J'ai même rehaussé l'objectif. Je voulais faire sous les 3h30. Je me suis dit, vas-y, 4h46. Je savais que ça faisait 3h20. Je sais même pas combien ça fait d'ailleurs aujourd'hui. 3h22, 3h21. Je me suis dit, je peux faire une dinguerie sur le premier marathon. Et vient la course. Bon. Alors, déjà, mon réveil sonne. Étonnamment, J'ai extrêmement bien dormi, j'ai fait la recharge glucidique les jours précédents. D'ailleurs, je pense que j'ai bouffé un peu trop de glucides et pas assez d'autres choses. Enfin, je parle en termes de macronutriments, donc protéines, lipides. Je ne sais pas si ça a impacté ma course, mais la veille, j'ai mangé riz, pâtes. D'habitude, je mange de la viande, mais là, j'ai rien bouffé. Et les jours d'avant, même chose. Donc, je prends une petite barre, là, les barres Morten, là, celles qui coûtent 27 euros et un rein. J'en prends deux. Donc, les deux reins me partent d'un coup. Ça coûte hyper cher, les gels Morten. Franchement, c'est une dinguerie. Donc, Morten, c'est un peu, j'ai pas tout compris, mais j'ai l'impression que ça fait un peu foi. C'est la référence sur le marché. Ils en profitent bien. Vous savez, c'est l'équivalent d'Apple sur, en fait, ouais. Enfin, non, vous savez pas. Et c'est vraiment l'équivalent d'Apple sur le marché des gels. C'est-à-dire que c'est brandé noir et tout, avec une écriture blanche. Tu sais que tu vas te faire ouvrir, en fait. Quand le branding, il est comme ça, tu te dis, ah, c'est stylé. Puis après, tu passes à la caisse, tu comprends. Ah oui, d'accord. Donc là, en fait, pour vous dire, je sais même pas combien ça coûte un gel. Ça coûtait 2 ou 3 euros, un gel. Pendant le marathon, t'en prends 6. Hein. Donc tu captes. Tu peux pas bouffer des Morten à toutes les sorties longues. Pourquoi je vous parlais des Morten? Bref, donc je bouffe mes petites barres. Je m'étais écrit, en fait, parfaitement une checklist de ce que j'allais faire le jour J, le matin, pour pas avoir activé mon cerveau. Donc hop, je fais mes petites mobilités. Alors je fais pas ma méditation, mais par contre, j'avais tout écrit dans les notes la veille. Et je dors bien. Honnêtement, j'ai bien dormi. Donc, normalement, tout va bien. Seul petit détail, je pars à la course, en métro. Je prends jamais le métro, mais il n'y a personne à cette heure-là. Donc, il est vraiment tout. Il est 6h30, tranquille. C'est très agréable, d'ailleurs, de prendre à ce moment-là et de découvrir un peu le corps qui se concentre pour une course. Comment vous le dire proprement? J'arrive pas à chier. Pas trouver d'autres moyens. Bref, c'est un point qui est très très important avant de se lancer dans un marathon, avant de faire une sortie longue, c'est de pas avoir de problème de numéro 2 quoi, pendant la course, parce que sinon ça te ruine ta course, tu dois t'arrêter, ou alors tu décides de pas t'arrêter, ce qui est encore pire. Je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il y ait des gens qui arrivent à faire ça, mais ça m'a traversé l'esprit. J'étais tellement accroché à la perche que je me suis dit, franchement, je préfère me chier dessus que m'arrêter, parce que je pense que voilà, mes actes n'auraient pas tenu mes paroles pendant la course. Ça m'étonnerait, parce qu'en plus, il y avait Anthony qui filmait et tout. Je peux pas terminer le marathon avec une merde au cul, c'est mort. Voilà, bon. Fini la pause caca. Donc, tout ça pour dire que j'arrive pas. Je fais des tentatives pas ouf, là, dans les toilettes sèches qui, franchement, c'est les toilettes sèches du marathon de Paris. C'est niveau aire d'autoroute, hein. Même, ça sent plus mauvais qu'une aire d'autoroute parce que c'est des toilettes sèches. Donc, tu dois, putain, en fait, voilà, il y a les merdes de tout le monde, de tous les stressés, en fait. Si tu vois que c'est des merdes de stress, en fait, hein, c'est-à-dire que ça pue la mort. C'est infernal. Donc, tu restes pas longtemps dans la cabine. En plus, voilà. Donc, tout ça pour dire que il y a un truc dans le bide, que j'avais pas senti avant le départ et que j'ai senti un petit peu plus tard. Mais on va en reparler. Donc, je vais me placer dans mon sas, qui était du coup devenu sas 3h15 pour ne pas être gêné par les gens du sas 3h30, même si je voulais faire 3h20, 21. Et mon plan, il est clair. Je vais partir en 4h48 tranquille au début. Et ensuite, je verrai comment je me sens parce que je ne veux pas prendre le mur au 30e kilomètre. Vous savez, le marathon, on dit que c'est 30 kilomètres de balade et 12,195 kilomètres d'agonie, de souffrance. C'est parce que voilà, tu te manges souvent un mur au 30e kilomètre et le marathon, il commence vraiment à ce moment-là. Avant, normalement, c'est censé être une balade de santé. Donc, je ne veux pas partir trop vite. J'ai retenu la leçon. Donc, je sais que c'est 4,46 mon allure. Je vais partir 4,48. Franchement, ça va rouler. Voilà. Donc, je me place dans mon sas. On part un peu plus tôt que prévu. Et j'ai ma petite caméra sur le front qui fait que je pourrais vous prendre une très très belle vidéo YouTube. Je suis prêt. Je me lance. Et là, bon, je lance la montre. Je me mets en 4,49. Je me mets en 4,49 en me disant, bon, tranquille. Premier, deuxième, troisième kilomètre, je me sens bien. Cinquième kilomètre, je passe et je me suis rendu compte derrière en dérochant que j'avais une respiration de fumeur de clope. Je ne sais pas si c'est la meilleure métaphore, mais je respire beaucoup trop fort par rapport au temps qu'on vient de passer. Ce qui est aussi très impressionnant dans les vidéos que j'ai enregistrées avec ma caméra, c'est qu'à aucun moment, je sais à ce moment-là que je suis pas dans une super forme, mais j'ai fait des runs dans des formes normales, donc je sais que je suis quand même capable de délivrer. J'ai tenu les allures sur des formes pires que celles que je ressens. Donc à aucun moment je ne perds un discours positif. Je me dis toujours bon, ok, j'ai pas forcément les jambes pour accélérer plus que ça, mais c'est normal. Donc, je suis en 4,49, mais la différence c'est que je ne peux pas. Je vois mal comment me mettre en 4,48 sans consommer même en 4,46 sans consommer des points de vie. Donc je reste en 4,49 tranquille. Je continue la course 5, 6, 7, 8 et la huitième. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. C'est dans le bide. J'arrive à bouffer les gels, mais il y a un truc chelou. Dans mon corps, je sais que c'est compliqué à savoir. Il y a plusieurs types d'échecs, d'ailleurs, dans une course. Il y a l'échec respiratoire. Je ne sais pas si c'est scientifiquement très prouvé ce que je raconte, mais il y a l'échec respiratoire. Donc, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à respirer, bref, tu n'arrives plus à avancer. Il y a l'échec musculaire, où c'est tes jambes qui t'arrêtent. Il y a l'échec énergétique, tu n'as plus d'énergie. Et il y a l'échec mental. Moi, celui que j'avais, c'était aucun des quatre. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais mal au corps. J'étais pas bien. Je savais juste que j'étais pas dans un bon jour. Mais en fait, il est tellement tôt dans la course que je ne peux pas accepter. En fait, je me suis préparé 4 mois pour faire 3h21, tenir en 4,46. C'est mort. Je tiens cette allure ou je meurs. Donc, 8e. Je sens que c'est. Bon, c'est pas ouf. Je n'ai pas des super sensations. Je ne suis pas en train de kiffer du tout. 10e kilomètre, là je commence à comprendre qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Je vois la montre qui descend, qui fait 4,49, 4,50, 4,51, 4,52. Parce que j'ai l'allure moyenne en fait du temps que je passe. Et je vois que je capte qu'il y a un truc qui va pas. Je suis pas bien, je suis dans le dur, de ouf. Mais malgré tout, à ce moment-là, donc, l'information commence à descendre et je me dis ok, bon, il y a très peu de chances que je fasse 4,46. Donc je vais mettre. En 4,49, 4,50, je vais essayer de rattraper, ça va tenir, ce sera un petit peu en dessous de ce que je voulais, mais bon, ça fera toujours un beau temps, 3h24, 3h23, un truc comme ça, c'est cool. 13e kilomètre, je vomis dans ma bouche. Je peux pas vous le dire autrement, je beuge, je vomis, je rattrape, je m'en fous un peu sur les sapes, et là je capte. Et en fait, vous savez quoi, le pire, c'est que je me suis même pas dit, c'est pas normal, je me suis dit, bon, il y a un gel qui est pas bien passé, tranquille. Ça ne sera pas la première fois que je vomis dans cette course. Donc, je vomis au 13e. Et en fait, c'est au 12e ou au 13e, je ne sais plus. Et là, okay, en fait, 13e, 14e. Je me rappelle parce que c'était juste avant de rentrer dans le bois de Vincennes. Au tout début, ou alors tout début du bois, j'ai une batterie à zéro. Il n'y a plus de force, il n'y a plus d'énergie. Je suis à zéro et je sais que c'est cuit pour le bikif. Je sais que c'est mort et que. Il va falloir s'accrocher pour peut-être accrocher à 3h30 parce qu'à ce moment-là, mon chrono, il n'est pas encore catastrophique. Mais je sais que j'ai plus rien. On est au 13e. Un marathon, c'est 42 km. Il reste 29 kills. Et là, je commence à me dire que ça peut devenir un calvaire. Mais je garde un discours positif. Donc, il y a des petites descentes, bois de Vincennes, mais ça monte aussi. Ça me fait très, 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 très mal. Très, très mal. Et donc, je souffre. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui me tape dans le crâne, dans le bide, etc. Et tout. Je vis vraiment une sale expérience que n'importe quelle personne qui a vécu une course dans le mur peut savoir parce que, en fait, c'est pas normal. J'accepte pas, en fait, au kilomètre 13. Kilomètre 8, je me rends compte que ça va pas bien. Kilomètre 10, j'accepte que ça va pas bien. Kilomètre 13, je me rends compte que je suis en train de prendre le mur. Le problème, c'est que le mur, vous avez retenu, c'est au 30e kilomètre. C'est pas au 13e. Et donc, je sais qu'il y a un truc qui va pas. Je sais pas ce que c'est. Je sais toujours pas ce qui s'est passé d'ailleurs ce jour-là. Il y a un truc qui va pas. Donc j'arrive à m'accrocher et là je me rends compte en fait que au 20e kilomètre. Enfin, on passe le semi, donc j'arrive à m'accrocher, c'est dans le bois de Vincennes, là, que tu passes le semi à la sortie. Et je me dis, putain, là, il reste la moitié, j'ai un carburant zéro. Alors, non seulement je vais pas faire l'objectif, sous les 3h30, mais en plus, en fait, je vois pas où je vais trouver l'énergie de courir jusqu'au bout, en fait. Comment est-ce qu'il reste 21 kilomètres? Je sais pas où je vais la chercher, donc je me dis, je vois les gens qui s'arrêtent en plus à côté et tout, etc. Le bois de Vincennes, c'est un moment assez dur parce qu'il y a un peu moins de public. En fait, t'es tenté, tu vois. Tu vois les gens à côté, tu dis putain, ils sont arrêtés. En fait, t'as envie de marcher. Et c'est dur d'ailleurs pour les gens qui n'ont jamais couru. Je trouve de savoir pourquoi est-ce qu'une personne a envie de marcher pendant un marathon. C'est parce que t'as envie que l'agonie cesse. Et tu crois que marcher, ça va la faire cesser, mais en fait, ça va juste te faire t'arrêter. Et donc, en effet, l'agonie va cesser, mais tu vas avoir la déception éternelle. Donc, tu vois les gens qui s'arrêtent, tu vois les premières personnes qui partent avec le SAMU. Et ça te fait un petit truc parce que tu sais que toi, enfin moi-même, je savais que j'étais pas loin de ce truc-là. Et parce que le problème, c'est que tu peux faire le dur, tu peux pousser, mais à un moment, il y a des limites physiques, tu vois. Il y a des limites corporelles de si tu pousses trop vite, bah vous voyez parfois les images des gens qui finissent le marathon, ils arrivent plus à marcher là, et les gens qui s'écroulent. D'ailleurs, c'est terrible. Il y en a eu aussi cette année-là, un mec qui genre 100 mètres avant la ligne, tu vois ses jambes qu'il porte plus, il a quatre pattes, il arrive plus à se relever et tout, etc. Mais il veut terminer. Ça peut arriver. C'est ce qui s'appelle prendre le mur en puissance 1000. Donc le mec, ça veut dire qu'il a un gros mental pour s'être emmené dans des situations comme ça. Donc je suis cuit, et c'est pas normal. Et en fait, je comprends pas parce que, vous savez, il y a 4 mois, j'ai couru le semi-marathon de Boulogne en 4:46. Là, je suis en 4:52 au semi, je suis mort. Il n'y a plus rien. Et donc là, je comprends qu'il y a vraiment il y a un truc à merder parce qu'entre-temps, j'ai quand même couru 800 km de prépa marathon. Je sais qu'il y a un truc qui va pas. Et en fait, je vois en fait l'objectif qui non seulement s'éloigne, mais en plus je me dis, ok, j'ai fait 4 mois de préparation, je vais pas terminer le marathon. Et à ce moment-là, je le pense vraiment. Je sais que j'ai pas d'énergie. Donc, c'est le moment où vous voyez les 4 échecs que je vous dis, échec respiratoire énergétique, check. Il me reste un peu de jambes, j'ai pas d'échec musculaire. Et le mental a pas encore craqué. Donc, le mental me tient jusqu'au 25-26e. 25-26e, c'est le moment où je me fais sauver. Et tel un ange venu des dieux, enfin deux anges venus des dieux, Paul et Guillaume, s'étaient placés assez tôt sur le parcours. Je sais pas s'ils avaient vu que j'étais en train de craquer. Mais ils sont venus me récupérer, je crois, peut-être entre le 26 et le 28. Je me souviens plus exactement. J'étais dans la mort, j'avais plus d'eau, etc. Enfin, parce que j'étais parti avec un camelback, je crois, d'ailleurs, c'est pas une bonne idée. Et donc, Guillaume me file des gourdes. J'avais bouffé tous les gels en plus. Je devais bouffer un gel tous les 5 km. J'avais bouffé tous les gels en me disant, c'est pas possible. En fait, elle est où mon énergie? C'est parce que j'ai pas assez bouffé. Je bouffais les gels. Au semi, j'avais quasiment bouffé tous mes gels. Il m'en restait un. Donc voilà, rien ne se passe comme prévu. C'est une catastrophe. La montre, enfin, l'addition, elle s'alourdit avec les kilomètres. Je vois le truc qui passe, hein. 4:58, 4:59. Et quand tu vois le 5, là, ça fait un coup au moral terrible. Quand tu sais que tu t'es entraîné, tu voulais faire 4:46 d'allure. Et en fait, j'essaie même plus de calculer comment je vais faire. Je me dis, là, l'objectif, c'est de terminer. Mon corps n'a pas voulu, m'a rien donné aujourd'hui. Je sais que ce qui est marqué sur la carte destinée aujourd'hui, c'est Théo, il s'arrête, il revient l'année prochaine. C'est mort. C'est mort de chez mort. Et c'est très compliqué à décrire, mais en fait, ton champ de vision, il se rétrécit. Tu as l'impression de vivre dans les enfers, tu as l'impression qu'il n'y a plus de couleurs, que le monde n'est que souffrance et tu as mal partout. Et en fait, moi, c'est même pas ça qui me faisait mal, la douleur physique. En fait, tu t'apprends à la subir pendant la prépa. C'est le mental de te dire, oh putain, l'objectif est parti en fumée, quoi. Et je vais faire partie de tous ces gens qui sont inscrits, qui ont pris leur dossard et qui n'ont pas passé la ligne. Ou alors, moi, l'équivalent de marcher, c'est pas passer la ligne. Je peux pas marcher pendant un marathon, c'est pas possible. Je vais pas m'arrêter marcher. C'est mort. Donc, 26, 27, enfin voilà, bref, je me fais rescue par Guillaume et Paul. Ça me fait un petit peu de bien, mais ça n'oublie pas la douleur. Et donc là, je souffre, je bois des gourdes, le pace, voilà, vous voyez, de toute façon, si vous avez vu la story que j'ai partagée, le pace se ralentit, ça court en 5:10, en 5:20, ça commence à devenir très, 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 très dur. Et là arrivent les putains de tunnels des quais. Quel enfer, ça, c'est ça qui m'a achevé. Et donc, comme si c'était pas assez, là, je commence à sentir un truc de comme si en fait il y a une pierre qui était tombée sur mon quadriceps. C'est très étrange. En fait, c'était des crampes. J'ai découvert en m'arrêtant à l'arrivée que c'était des crampes. J'avais jamais eu de crampes au quadriceps. Et en fait, les crampes, c'est pas Et les crampes, c'est une faiblesse musculaire. C'est pas un truc qui t'arrive au hasard comme ça, ça te touche. Oh, surprise, des crampes. C'est pas comme une crampe. Vous voyez, comme vous vous faites prendre par une crampe, ça te tape, tu peux rien. Là, c'est juste un moment, il n'y a plus de muscles pour t'emmener dans la direction dans laquelle tu veux que ton corps il aille. C'est impossible. Donc, je commence, c'est pas très douloureux au début. Tu sens juste une petite gêne. Et en fait, c'est comme un couteau qu'on met dans ton quadriceps et qu'on enfonce d'un centimètre de plus tous les kilomètres. Donc, ça veut dire que non seulement tu es en train de souffrir, mais en plus, tu sais que tu peux faire une petite multiplication et savoir à peu près quand est-ce que le couteau il aura transpercé ton quadri. Et alors, c'est le moment où il faut prendre un peu de recul et se dire, je suis venu à la course avec d'autres larrons, je ne suis pas tout seul à courir. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Donc, commençons. Je vais commencer par Tom et je terminerai par Jordan. Donc, Tom, c'est qui? J'en ai pas parlé jusqu'à aujourd'hui. Tom, c'est le fondateur de Standaricom. Enfin, de la Standaricom. C'est important de mettre le « là ». C'est une agence CRM qui est dans le groupe Kodak, mais c'est aussi un très bon ami. Et donc, lui, s'est inscrit en dernière minute au marathon. Il a fait 3 mois de prépa. C'est un peu l'outsider. À ce moment-là, il a pas tâté. En fait, il a couru la première moitié le premier semi en 5-20 de moyenne. Et il était moins fort que nous, bien moins fort que Jordan et moi. Et après, il se met en genre 4-50 ou 4-52 et tout. Il patate, il patate, il patate, il patate. Et alors, j'empiète un petit peu chronologiquement sur le truc, mais Tom aussi a eu des crampes. Et des bien pires que les miennes. Il a eu des crampes qui te font tomber. En fait, c'est ce que je vous disais, quand le couteau il a transpercé le quadriceps, bon bah tes jambes ne te portent plus. Et donc lui, deux fois, il est tombé, il s'est fait aider par le SAMU, je crois. Je crois la première fois par le SAMU et peut-être la seconde fois par des randoms sur le bord de la route qui lui ont fait des massages aux jambes pour qu'il puisse repartir. Donc, il est parti, et s'il avait tenu à la fin sans avoir cet échec musculaire, il nous aurait poutré en termes de temps. Il était bien plus rapide, il a eu la meilleure stratégie de course. Donc, je sais que ce truc-là peut arriver. Au moment où je cours la course, je ne le sais pas, mais c'est un truc qui peut arriver quand tu as des crampes trop dures. Et tu le sais, de toute façon, tu le sens dans tes jambes. Tu sens qu'à un moment, ça va lâcher. Donc, ça, c'est Tom. Maintenant, Jordan. Jordan, vous dites, il voulait courir en 4,46 comme moi. Jordan, il a pris le mur aussi. Il a pris le mur comme moi au 10e kilomètre. C'est pour ça que c'est très, très, très étrange. Cette course est très étrange. On l'a pris au même moment. Genre, moi, je l'ai pris au 12 ou 13. Lui, il a dû le prendre dans les mêmes moments. Et pareil, dès le démarrage, il se sentait pas bien. Donc, je sais pas si on s'est fait saboter, si on s'est empoisonné, ou alors c'est un truc qu'on a fait, je sais pas, pendant le team building. On a dit, il y a de la merde dans la bouffe. Ou je sais pas ce que c'était. Mais on se sentait pas mal. Donc, ça m'étonnerait que ce soit une excuse. Et donc, lui, il est en train de prendre le mur. Mais genre, encore pire que moi. Encore pire que moi. Et donc je sais qu'il est en train de souffrir et j'entends en fait Paul et Guillaume qui devant moi parlent de Jordan. Ils disent qu'il est en train de prendre le mur et ils disent que Tom est en train de patater parce qu'au moment où je suis en train de courir, j'ai pas terminé. Donc bref, la team Kodak n'a pas fière allure à ce moment là donc on est au 28e kilomètre, 29e kilomètre, on arrive au 30e, c'est le vrai mur, c'est le moment où je commence à avoir les crampes et là donc je me prends le second mur, le mur musculaire. Il ne reste plus que le mental et c'est le mental qui va me porter jusqu'à, donc vous voyez, le parcours du marathon, ça passe sur les quais, pour ceux qui connaissent Paris. Ensuite, ça monte dans le bois de Boulogne. Alors, normalement, si vous suivez, vous savez que j'habite à Boulogne. J'ai fait toute ma prépa dans le bois de Boulogne. Donc, je me dis, je sais pas ce qui va se passer, mais il peut se passer un truc dans le bois de Boulogne où ça repart. Où ça repart parce que c'est près de chez moi. Je vis le pire calvaire de ma vie dans le bois de Boulogne. Cette montée, j'étais allé repérer le trait vert là, du marathon la veille. Je savais où ça allait monter, je connaissais parfaitement la topographie. Et bien écoute, à ce moment-là, c'est très marrant parce que c'est exactement au même endroit où, dans la vidéo la veille, parce que je filmais, je dis bon, bah c'est ici où je vais souffrir. C'est exactement à cet endroit-là, genre à 5-10 mètres près, que le lendemain, donc le jour du marathon, genre au 34e kilomètre, je vomis pour la seconde fois. Je vomis. Et donc là, ce qui est marrant, c'est que je vomis à côté de Guillaume. Donc je vomis dans ma bouche. Encore une fois, parce que ouais, je suis quand même un mec propre, bien élevé, et j'ai pas envie de m'arrêter en fait. Si tu t'arrêtes. Je veux pas m'arrêter pour vomir. Donc finalement, la bulle sort, mais elle retombe. Après, bon, évidemment, je m'en débarrasse rapidement. Je suis désolé de vous parler de vomi comme ça, mais c'est le marathon. Donc, expérience atroce. Et puis après, bon, bah voilà, le mental me porte kilomètre par kilomètre. Vraiment, je pense au foulé. Je suis foulé par foulé. J'en peux plus. À la fin, il y a ma mère et ma sœur qui m'encouragent sur les derniers kilomètres, et ça m'aide fortement. Et en fait voilà, donc c'est que le mental qui tient. Et donc en plus j'essaie de ralentir le moins possible. Je pense que je suis à bloc. C'est comme une carafe Brita avec les filtres là, où tu mets de l'eau et ça s'écoule dans le filtre à une certaine vélocité. Et en fait c'est comme si dès que tu mets un petit peu d'eau dans le filtre, et ben directement tu te sers un verre en dessous. Donc il y a en fait il y a constamment rien dans la carafe. Et dès qu'il y a rien, en fait, tu le sers. Donc ça, c'est, en gros, c'est l'énergie que je suis capable de foutre dans mes muscles. C'est-à-dire, je fais une relance, et ensuite, il n'y a plus rien. Je tiens au du max que je peux, je fais une relance, il n'y a plus rien. Et la batterie n'a jamais le temps de se recharger, donc c'est quelque chose qui est très, très fatigant. Et j'arrive, en fait, mentalement à tenir jusqu'à la fin. Dans ce qui a été, je pense, le calvaire mental le number one de toute ma vie, mais genre 10 fois plus fort que le second, c'est terrible. En fait, j'étais pas censé prendre un mur au 13e kilomètre, donc voilà, le mur normalement les gens ils prennent au 30e, moi j'étais en train de mourir dès le 14e. Et donc je passe la ligne avec mon grand moment d'émotion. Je fais l'erreur de m'asseoir parce que mes jambes ne me portent plus. Bon, moi c'est le moment où les crampes t'attrapent, j'ai tout en vidéo, horrible, terrible. Et après voilà, bon bah s'ensuit une phase dont je vais vous parler juste après, c'est l'après avec plein de choses. Voilà. Donc je vous parle d'abord juste de quelques petits trucs, quelques commentaires sur la distance. Déjà, je voulais juste dire que c'est pas pareil un marathon, c'est pas pareil que courir 42,195 km. Le marathon de Paris, en fait, ça te rajoute, et je pense que c'est pareil quand à chaque fois que tu fais une grosse course ou une course qui a du sens pour toi, ça te rajoute les conditions dont tu as besoin pour aller au bout de toi-même. C'est-à-dire que ça amplifie ta forme du jour. Si tu es super motivé, super bien et tout, etc., tu vas te dépasser parce qu'il y a un contexte. C'est comme ça, c'est comme les équipes de foot qui jouent à domicile. C'est le 12e homme. Bah, le marathon de Paris, c'est la même chose. C'est les conditions du jour J qui soit te font te rendre plus fort, soit te font exploser. Alors moi, j'avais l'habitude que ça me rende plus fort, mais là, avec la forme du jour, en fait, je pense que ça m'a peut-être donné un peu de force mentale parce que les gens qui encouragent, c'est dur. Enfin, c'est bien. Il y a quelques personnes qui m'ont reconnu sur le côté de la route, qui m'ont vu en mode zombie. Men in Black, vous oubliez cette image de votre cerveau. Il y avait d'autres gens qui m'encourageaient et qui disaient allez le lion, parce que j'avais marqué le lion sur mon dossard. Et donc c'est très dur à définir en fait. Tu peux te préparer physiquement, mentalement pour courir 42 km, mais le jour du marathon, c'est un facteur X. C'est comme le jour du match. Et moi j'avais jamais joué de match, ce genre de match. Et ne croyez pas que c'est deux semis. C'est pas comme un semi. J'ai couru un semi, ça n'a rien à voir. Il y a un folklore, il y a un truc autour du marathon qui se passe dans ta tête quand tu l'as bien préparé et que tu y as accordé de l'importance, qui fait que c'est pas pareil. Donc c'est pas pareil que courir 42 km, et ça, j'avais pas anticipé. Donc ce qui fait que, en gros, c'est mon second point, c'est que tu peux être prêt pour la distance, mais pas pour l'aventure mentale que ça va être. Et en fait, tu vis une vie entière dans ta tête. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en fait, t'en gardes un souvenir si fort, c'est parce que c'est comme si t'étais parti en vacances. Sauf que c'était des vacances où tu t'es fait planter des couteaux dans les quadriceps. Mais là, j'en garde un souvenir. J'ai l'impression qu'il s'est passé. La journée a duré un mois. Et donc, cette aventure mentale-là, tu l'as pas pendant les sorties longues. Tu l'as un petit peu. Mais en fait, il y a des alternances. Il n'y a pas la pression. Il n'y a pas de public. En fait, tu n'es pas prêt pour ce truc-là. Il faut l'expérimenter une fois. C'est pour ça que je pense que c'est très compliqué de faire une performance au premier marathon. Faire une performance dont tu es fier et en fait, où tu es convaincu que tu as optimisé tous les facteurs. Parce que ce facteur-là, en fait, vu que tu ne le connais pas, il est impressionnant quoi. Et donc je voulais parler de la dernière chose, c'est que mon marathon ce jour là je l'ai subi. Alors je vous parlais avant d'endurer, subir c'est pas exactement la même chose. L'étymologie de subir, c'est se soumettre à quelque chose de pénible. Ce jour là j'ai pris une grosse claque d'humilité, parce qu'en gros voilà, donc je termine le marathon, j'ai même pas dit mon temps, je termine en 3h42. Donc 3h42 c'est 12 minutes en dessous de l'objectif de 3h30 et 20 minutes en dessous de l'objectif que je m'étais fixé, mais c'est plus l'infini au-dessus de ne pas finir. Et c'est exactement comme ça que je l'ai vécu en passant la ligne. Ça aurait pu être beaucoup plus long. Oui, ça aurait pu moins bien se passer. C'est-à-dire que j'ai revu mes attentes pendant la course pour comprendre que la victoire du jour, avec la forme qui m'avait été donnée le matin, et c'est dur à accepter que la forme de la prépa n'est pas la forme du matin, c'était finir la course. Et donc 3h42, en fait, par rapport aux conditions du jour, j'en suis très fier, par rapport à ce que je valais. Je pense à ce que je m'étais mis comme douleur à l'entraînement. Évidemment que je suis un peu déçu. Donc, j'ai pris une claque d'humilité, de comprendre que t'es pas plus fort que le marathon. Tu peux pas te croire plus fort que le marathon. Personne l'est. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est peu importe ton niveau, le marathon, tu le subis à la fin. Et à la fois, il y a quand même une partie active. Subir, c'est se soumettre à quelque chose de pénible. Mais je trouve qu'il y a vraiment un truc, c'est un moment, c'est vraiment ce que tu apprends le running, c'est que plus tu essaies de fuir la douleur, plus ça te fait mal. Et ça, c'est marrant. Alors, ça n'a rien à voir. Mais à un moment, j'étais en vacances. Il y avait un masseur un peu bizarre, masseur magnétiseur, je sais pas quoi et tout. C'était étrange, mais j'étais quand même allé me faire masser. Et à un moment, il me poussait sur des muscles, etc. Et il me disait, arrête de résister. Je fais, mais gros, mais tu m'appuies là sur l'ischio et ça fait mal. Et en fait, c'est un exercice qui est très, très dur. C'est d'accepter la souffrance. Il te pousse. Donc, il te fait mal. Il appuie avec le talon, des trucs qui sont super mal. Et j'ai réussi à le faire à la fin. J'ai réussi à détendre mon truc et en effet, ça fait beaucoup moins mal. Enfin, c'est pas que ça fait beaucoup moins mal, c'est juste que tu, mentalement, tu vis beaucoup mieux la douleur parce que t'es pas en train d'essayer d'y résister. Vous voyez, c'est comme le stress. C'est comme si on te file une haltère dans la main et t'essaies de résister pour la soulever. Ou alors, non, tu laisses tomber ton bras et juste tu gardes l'haltère dans la main. On dit, tu lâches pas l'haltère. Et en fait, t'es pas obligé de tenir l'haltère dans les airs et donc de faire utiliser ton biceps pour que l'haltère reste dans tes mains. Eh bien, c'est la même chose avec la souffrance au marathon. Plus tu essaies de résister à la souffrance, moins tu l'acceptes, plus tu passes un calvaire en fait mental. Et je pense que j'ai essayé un peu de résister à la douleur au début, et j'ai fini par l'accepter à la fin. Et en fait, je m'en souviens même pas comme une expérience qui faisait mal physiquement. C'est très étrange, alors que j'ai eu très très mal physiquement. Je m'en souviens comme une expérience qui mentalement m'a demandé de passer par plein de phases, de la phase de OK. Je suis pas très bien, mais j'accepte pas. Ah, je suis pas très bien, j'accepte. Ah, je vais pas faire mon objectif. Ah, je vais pas terminer. Ah, en fait, j'ai terminé. Et ce roller coaster de trucs, ça, j'étais pas prêt. Et je pense que c'est ça, en fait, que le marathon t'impose. Et c'est dans ce sens-là où tu le subis, en fait. Il t'emmène dans des zones mentales et physiques qui sont uniques. Et c'est pour ça qu'en fait, l'après est si important. Et je souhaite à tout le monde de vivre ce truc-là parce que c'est vraiment le truc que j'avais le moins anticipé. Je vous ai fait un cliffhanger. Je prends une petite gorgée quand même. Donc, le premier truc sur l'après, donc je parle vraiment quand tu passes la ligne, et plus les minutes passent, plus l'émotion elle descend. En fait, c'est pas qu'elle descend, c'est que c'est comme un volcan en fait. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, et ça explose pas quand tu passes la ligne d'arrivée. Alors moi, ça m'a pas fait ça. Ça explose quelques minutes après. Moi, ça a explosé 10-15 minutes après. Et ça, le feu d'artifice d'émotion que tu passes, après la course, j'étais pas prêt. Ça, j'étais vraiment pas préparé. Alors, j'étais pas préparé pour la distance et mentalement. Enfin bref, il y a plein de choses sur lesquelles ma préparation a pas porté ses fruits. Mais ça, pas du tout. Et c'était très bien, en fait. Et donc, c'est intéressant parce que, en fait, c'est comme s'il y avait une palette d'émotions dans laquelle il y a, la tristesse, la joie, les trucs comme ça, et il y a une émotion dedans, c'est marathon. c'est l'émotion marathon. Que j'ai, en fait, voilà, aujourd'hui, ça fait que 7 jours hein, que j'ai vécu ce truc-là, donc j'ai encore du mal à foutre des mots dessus, à expliquer pourquoi. Vous savez que j'aime bien expliquer pourquoi, ça me résiste encore un peu. Je vous la fais simple, j'ai fait que pleurer. J'ai fait que pleurer. Je pense que c'était une descente de nerfs, de se dire que c'est fini, je sais pas. J'arrive pas à logiquement expliquer. Je comprends toujours pas d'ailleurs pourquoi. Et en fait, ce qui est marrant entre guillemets, c'est que pendant que tu pleures, tu sais pas pourquoi tu pleures. Et tu sais juste que c'est pas des pleurs de j'ai le seum. C'est pas du tout le cas. Mais je savais pas. En fait, incapable d'expliquer. Et c'était un moment très 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 fort en émotion. Je sais pas si, je pense que l'histoire du jour a dû aider, parce que j'ai cru que j'allais abandonner 100 fois, vraiment. Bon, tous les 100 mètres, en fait, je me dis, je vais m'arrêter, je vais mettre sur le côté en PLS, et il y a bien un mec du SAMU qui va venir me sauver. Aussi, peut-être parce que pendant toute la course, je me suis rendu compte qu'il y avait, je m'en suis rendu compte tôt, que Jordan était en train de mourir, autant que moi, et comme j'étais dans cette douleur-là, j'imaginais très très bien la douleur dans laquelle il était, voire même, ça se trouve, c'était pire, en fait, parce qu'il a pris le mur encore plus fort que moi, donc il terminait un peu moins de 4 heures. Cette émotion, ce feu d'artifice, rien que pour ça, t'as envie de. Enfin, j'aimerais bien avoir une petite boîte sur laquelle je peux appuyer qui me fait revivre ce truc-là. Et je suis trop content qu'on ait pu filmer des trucs parce que ce moment-là, il sera pour l'éternité. Et on a tout enregistré, tous ces moments d'émotion. C'était un peu chelou d'ailleurs parce que c'est la première fois que je pleurais devant une caméra et j'étais. j'ai pas prévu ça, j'étais pas très à l'aise, évidemment. Mais je m'en battais les couilles en fait. C'est très marrant, mais en fait, quand tu vis un truc aussi fort comme ça, ça te bute le bruit. J'ai pleuré, il y avait peut-être 500 personnes autour de moi, donc tout l'arrivée, je me souviens très bien, je m'en battais les couilles qu'il y a une caméra, tu t'en fous. Et c'est très intéressant, parce que c'est tellement intense que ça te coupe en fait, ça te remet les yeux en face des trous sur ce qui est important. Et il n'y a pas grand-chose. Et un truc dont, bref, j'en parlerai, c'est une leçon après, je me suis rendu compte que ce qui était important pour moi, c'était que cette émotion-là, elle était trop lourde. Et j'arrivais pas à la porter tout seul. Vraiment. Et j'avais envie, en fait, et je l'ai vraiment ressenti comme ça, j'avais envie de la partager avec des gens. Et alors, juste avant, c'est le point dont je voulais vous parler juste après, mais d'abord, j'ai un autre point. Ce que je voulais dire sur le marathon, c'est que En fait, c'est comme acheter un souvenir. Quand, ce que tu dépenses avec le dossard, finalement, c'est pas grand-chose, mais ça coûte une burne, hein, c'est 150 balles, 160 euros là, pour un dossard. Je suis arrivé trop tard, donc j'ai dû prendre l'option avec vidéo qui m'a coûté 200 euros. Ce que t'achètes, c'est pas le droit de courir ou je sais pas quoi, c'est l'éternité. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un excellent deal, en fait, ce 160 balles. T'achètes un truc dont t'es quasi sûr que ça sera un des highlights de ta vie, dont tu vas te souvenir quand tu seras en train de claquer sur ton lit d'hôpital. Et alors, je sais pas si tu te souviendras d'avoir passé la ligne, etc., mais tu te souviendras, moi, c'est un truc sûr et certain, enfin, parce que c'est un highlight émotionnel de ma vie, de ma courte vie, qui sera peut-être remplacée par des trucs encore plus forts plus tard. Mais, c'est le moment après. Le moment après. Et c'est le point où je voulais en venir, c'était, et j'ai une citation qui est bien connue, je crois que c'est Into the Wild, qui disait que, vous savez, c'est un mec qui part dans la forêt, s'isoler. Et à la fin, je crois qu'il claque, et qui dit que, il nous livre une leçon, donc au bout d'un film de 2 heures, c'est le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Et ben ça, je l'ai compris du plus profond de mes tripes à ce moment-là, à la fin de la course. Donc ça fait référence aussi à cet épisode du Paris-Versailles, j'avais déjà documenté pour les OGs, ceux qui écoutent depuis longtemps, où j'avais terminé la course et j'étais tout seul. Et à ce moment-là, j'avais capté que, la course, en fait, c'était pas juste se préparer et faire le truc, passer la ligne d'arrivée avec un bon temps. À la fin, je m'étais senti genre, ah, c'est fini là. Et c'est comme si, en fait, tu vas voir un film au cinéma et on te coupe les 10 dernières minutes. Et tu sais pas comment le film il se résout. Et t'es là, ok. Alors bon, c'était bien ce que je viens de voir, mais il manque un truc. Et ce qui manque à la fin, c'est le moment de joie partagée. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois courir avec des gens, avoir des gens qui sont capables de célébrer les victoires avec toi. Et ce qui implique aussi, dans l'autre côté, d'être quelqu'un qui est capable de célébrer les victoires avec les autres, d'être content pour les autres. Et vous savez que c'est un truc sur lequel, en tant que. Vous savez, les introvertis, c'est pas forcément les meilleurs pour ces trucs-là, je trouve. Pour célébrer les victoires avec les autres. En tout cas, moi, ce que cette prépa running m'a appris, c'est aussi, en fait, à être foncièrement heureux pour les autres. Je l'avais pas été vraiment beaucoup avant. Je l'ai été à plein de moments, mais pas dans les tripes, en fait. Et j'ai un moment dont je me souviens, qui était pendant la prépa, c'était 3 semaines avant, où il y a Guillaume, du coup, là, un peu celui qui est venu à la Me Rescue au 28e. Entre autres, il y a ce qu'il y avait Paul aussi. Et bien, donc ce Guillaume, lui, donc c'est un peu le OG du running chez Kodak. Donc il avait déjà couru le marathon l'année dernière. Et là, il courait l'éco-trail. Donc 80 km de dinguerie. Donc j'ai fait les 20 derniers kilomètres avec lui. Et, alors, il y a eu d'autres moments où j'ai pu partager des émotions. En fait, partager des émotions avec quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un vit une émotion et toi, tu la vis, t'arrives à sentir comment la personne se sent. Et ça arrive à des... Je sais pas si ça s'appelle l'empathie, et ça arrive à des moments... Alors c'est terrible, mais ça arrive aux enterrements, quand tu vois des gens tristes, souvent t'es triste avec eux, même si j'ai dû arriver d'accompagner mon ex à un enterrement, et d'être triste pour les gens, parce que je voyais des gens tristes. Et c'est souvent ça qui me rend triste, moi, aux enterrements, c'est de voir les gens tristes. Et il y a plein d'autres moments où tu partages la joie. Quand quelqu'un... Genre, je réfléchis, il y en a des tonnes, hein, mais je pense à ma soeur est médecine, c'est des trucs où t'as pas besoin de te forcer et de dire, en fait, quelqu'un qui est content pour toi, il dit pas je suis content pour toi. Juste, il te regarde en train d'être content et il est content. Et ça, c'est un truc qui a été fait x10 par le running. Donc, tout ça pour vous dire que l'éco-trail, donc j'ai vécu les 20 derniers kilomètres de calvaire là, de Guillaume, je sais pas comment est-ce qu'il a fait ça, parce que moi j'étais cuit à la fin des 20 kilomètres, lui en avait 60 de plus dans les pattes. Et que tu le vois commencer à monter la tour Eiffel, parce que ça finit la tour Eiffel, c'est trop stylé d'ailleurs, et que tu captes la valeur que ça a pour lui, tu fais « Waouh !» En fait, ce truc, j'ai pas couru l'éco-trail, mais j'ai pris une partie de l'émotion de ce que c'était d'avoir fini l'éco-trail, qui évidemment sera supplantée si jamais un jour je cours ce truc-là et que je me rends compte que je vis le truc là-dessus. Et je pense que c'est aussi ce qui s'est passé avec les gens qui sont venus voir le marathon, ma sœur, mes potes et tout, etc. C'est qu'en étant là ce jour-là, ils ont pris une partie de l'émotion. Et ça se fait que quand tu t'acceptes de t'effacer pour quelqu'un. De se dire qu'il y a un moment où, gros, la journée n'est pas pour toi. Et finalement, en faisant un peu preuve d'abnégation comme ça, tu vas recevoir beaucoup, 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 beaucoup. Et rien que même le jour J, le fait d'avoir... En fait, je sais pas, je me rappelle, c'est un... L'éco-trail, c'est un highlight de ma prépa marathon. Alors que c'était pas un objectif du tout, c'était même pas une sortie longue ou quoi que ce soit qui était écrite dessus. J'ai pas fait coller ça avec un moment de la prépa ou quoi. Même d'ailleurs, ça m'a coûté sur la séance du lendemain que j'ai pas pu faire bien. Mais c'était un truc intense. Et le fait d'être dans un truc intense, même si c'est pas toi qui est la star du truc intense, tu le vis en fait avec les gens. Et c'est une autre façon de vivre les aventures des autres. Et ça me fait penser à ce que disait, je crois que c'est Amélie Nothomb sur la lecture de bouquins. Elle disait, je plains les gens qui ne lisent pas car ils ont vécu si peu de vie, je crois, ou un truc comme ça. Et bien en fait c'est ça, quand tu lis, je pense que tu vis la vie des autres. Quand tu vis des moments forts avec des gens à proximité, bah tu, en fait tu décuples le nombre d'expériences que tu peux vivre. Tu peux avoir accès à des trucs. Moi j'ai pas fait une prépa à 80 km. Je sais pas courir ça. Lui il a fait, pendant sa prépa il s'est entraîné 50 km. Il a fait le tour de Paris. Le GR mes couilles là, 75, je sais pas quoi. Et bien t'as pu en attraper un petit bout. Et donc ça m'a fait comprendre. C'est ce que m'a fait comprendre cette prépa. Ce que m'a fait comprendre le marathon, c'est qu'en fait il y a plein de choses que tu peux. En fait les émotions c'est pas à somme nulle. C'est pas comme un billet, genre j'ai 1 euro, je te le donne, c'est toi qui la vis, enfin c'est pas, c'est, voilà. On peut être deux à avoir le billet en même temps. Donc cette émotion, voilà, ça illumine. Tu transfères pas totalement toute l'émotion d'un marathon, mais tu peux en donner un bout. Tu donnes 20%, 30% ou un bout par-ci par-là. Et bien ça, je l'ai vécu dans le sens du récipient pendant cet éco-trail et pendant d'autres moments. Mais aussi, je l'ai aussi vécu dans l'autre sens. J'ai eu l'impression d'avoir tellement d'émotions ce jour du marathon, là, notamment quand on est arrivé au resto et qu'on a célébré avec tout le monde, que j'avais envie d'en foutre partout, quoi. J'avais envie de pleurer sur tout le monde, de prendre tout le monde dans mes bras. Et surtout, très intéressant, j'avais envie de prendre tout le monde dans mes bras, mais j'avais pas envie de parler de ma course. Alors je sais pas si c'était parce que j'étais pas content ou alors si, parce que c'était pas ça que je voulais partager avec les gens. Ce que je voulais partager, c'était l'émotion, c'était pas le récit. Et en fait, c'est marrant parce que tout le monde te félicite, ah bravo, bravo, bravo. Et à ce moment-là, je vous jure, je ne ressentais aucune gratification de la félicitation. J'étais juste en fait content d'être avec les gens. C'est un moment où en fait, parfois, tu t'assois et tu veux prendre des photos avec tes yeux. Alors heureusement, moi, il y a Anto qui a les yeux avec la caméra. Donc il a pu immortaliser certains moments d'ailleurs. C'est pour ça qu'en fait, sur ce point-là en particulier, je lui dois une gratitude éternelle. Et donc à Anto, du coup, en tant que personne par ce biais-là. C'est parce qu'il a capturé un moment qui, pour moi, sera éternel. Donc, la gratitude qui va avec sera énorme. Et donc, bref, ça m'a fait comprendre des trucs sur l'amitié. En fait, je pense que les amis, c'est les gens avec lesquels tu as envie de célébrer des trucs. Quand tu as une bonne nouvelle, tu la partages avec qui? Et en fait, il y a certains types d'expériences que tu as envie de partager avec d'autres gens, avec des gens, avec d'autres gens, etc. Donc, c'est pour ça que c'est pas absolu. Genre, c'est pas un pote avec lequel tu as envie de partager tout. Moi, par exemple, ces expériences running, j'avais envie de les partager avec les gens qui avait partagé de plus ou moins loin cette aventure running pendant la prépa, qui avait vu, enfin, et donc il y a au restaurant après, ouais, et même après pendant la ligne, pendant la course, etc. C'était que des gens qui avaient eu de plus ou moins un impact sur la façon dont j'ai vécu cette histoire de prépa. Et voilà. Et puis après il y a d'autres expériences. Je sais pas, si, par exemple, si on passe 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce sera peut-être pas les mêmes personnes que j'aurais envie d'avoir. Mais en tout cas, c'est t'as des amis, et c'est comme ça que tu découvres c'est des amis de quoi, et c'est quelle force d'amitié que tu as avec eux. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, tu comprends que moi il y a des gens auxquels je parle pas beaucoup. Et pourtant, c'est à eux que je pense qu'il faut célébrer des trucs. C'est les gens avec lesquels j'ai envie de partager. Donc, c'est pas une corrélation. C'est pas plus tu parles à quelqu'un, plus t'es pote avec lui, je pense. C'est plus tu vis des trucs avec quelqu'un, plus tu vis des événements intenses avec quelqu'un, plus t'es pote avec lui. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir. En fait, tu ne peux pas courir un bon marathon et l'avoir ancré dans ta mémoire si jamais t'as pas des relations avec des gens très développés. Si t'as pas des gens qui t'accompagnent ce jour J, hein. Les solitaires qui vont courir. Leur truc, je pense pas qu'ils vivent la même expérience le jour J, quoi. Ils pleurent, après, bon, bah, ils rentrent chez eux et l'histoire, elle s'arrête là, quoi. Et donc, tous les gens, en fait, moi, avec lesquels je voulais célébrer, je les ai vus dans la journée. Voilà, très simple. Voilà. Tuc, tuc, tuc. Donc, gratitude éternelle, bref, blablabla. Je vous parle de la redescente. Donc, la redescente. Alors, je l'ai eu déjà un petit peu le soir, où quand tu rentres, bon, il est 17h, 18h chez toi. J'avais un mal de bite terrible. Ah oui, j'ai revomi à la ligne d'arrivée, je vous ai pas dit. J'ai vomi un peu de ce qui restait dans mon bide. Donc pas grand chose. Donc c'est pour ça, parce que c'est très important. C'est 3 vomis. Un marathon, 3 vomis. Donc la redescente, ça pour dire, parce que je pensais que j'avais. Voilà, je vous disais, j'avais mal au ventre après le marathon, etc. Et. Je vous épargne les détails. Disons que. Et un mec, j'ai pris un café que j'ai pas bu. Proche des champs pour pouvoir utiliser les toilettes. Donc, la redescente. Moi, la redescente, j'ai vraiment vécu à New York. Donc, je suis parti le lendemain. Donc, le lundi, quand même, je suis allé à la salle. Alors, j'ai boité jusqu'à la salle, j'ai pas fait les jambes, évidemment. Et je voulais vraiment pas lâcher le truc. Et je sais qu'en fait, c'est comme. Je vous dis, voilà, c'est. Putain, mais c'est ça que je voulais dire. Je me rappelle quand je me suis perdu dans le trou noir de la prépa juste avant, là. C'est comme quand. En fait, une fois que tu as vécu ce moment avec une telle intensité. ça rend tous les autres trucs fade. Et donc après, moi, je suis parti à New York voir une conférence de Jordan Peterson. Et donc, on a passé 3 jours là-bas avec David, un autre pote qui était là au resto. Et Jordan Peterson, à un moment, il dit un truc qui est très simple et qui m'a beaucoup marqué. Il dit « You are the most alive when you are most on fire ». Et en fait, pendant toute cette prépa et pendant la course, et après la course, tu te rends compte que t'étais en feu. T'étais enflammé. Toutes les émotions étaient décuplées. T'étais enflammé. Et tu te rends compte les jours d'après que bon bah la flamme, elle s'éteint. Et donc tu as un sentiment bizarre de t'es perdu. Je pense que c'est... Alors bon, j'ai pas d'expérience trop de drogue auquel comparer. J'ai jamais pris ce genre de truc, mais par contre, je suis sûr qu'une redescente de drogue, c'est la même chose. Parce que je pense que c'est ça que ça fait. C'est-à-dire que ça fait un truc très intense qui le lendemain, en fait, voilà, tu le payes à un moment, tu vois. T'as pris un truc très intense. En fait, si c'est intense à un moment, ça veut dire que c'est moins intense à un moment d'après. Et en fait, là, c'est juste que le différentiel entre les deux est tellement fort sur une tellement courte période de temps que bah, t'es du père. Et t'es un petit peu en mode, bon, bah, je vais faire quoi de ma vie? Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui sont en fait des drogués au sens propre et qui derrière reprennent directement un challenge. Ah oh, bah, je refais le marathon. Ouais, ou je refais le jeu directement parce qu'ils peuvent pas vivre sans. C'est comme les gens qui peuvent pas être tout seuls. Vous savez, ils vont copine en copine, etc. Ils s'arrêtent jamais. C'est parce qu'ils n'arrivent pas. En fait, c'est pas parce qu'ils aiment bien les gens avec lesquels ils sont. C'est parce qu'ils n'aiment pas l'idée de pouvoir être tout seul. Ils détestent ça plus qu'ils aiment le fait d'être avec une bonne personne et de prendre le temps que ça nécessite. Donc, bah, écoutez, c'est la même chose. J'ai vécu la même chose à New York. J'ai trop kiffé la ville. Du coup, j'étais hyper détente. J'étais un peu du père et c'est une très bonne ville dans laquelle être du père, New York. Tu fais des trucs très sympas qui sont vraiment du divertissement. Donc, le divertissement, c'est super quand t'es perdu, hein. Il faut se divertir. Ça te permet d'oublier qu'en fait, t'as plus d'objectif et donc tu fais des trucs très cool. Bon, bah, j'ai fait tous les trucs de touriste. Voilà, bref. Donc, cette redescente, si jamais vous la vivez après un marathon, sachez que bon, c'est normal. Enfin, je pense que ça veut dire que vous avez bien fait le travail avant. Vous avez fait la prépa très intense, vous l'avez bien célébré, vous avez bien couru. Vous avez un scénario de course cool. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que le marathon, ça change ton rapport au temps. Ça te fait comprendre que 4 mois, c'est pas si long que ça. C'est long, mais c'est pas si long que ça. Et par exemple, là, si on prend juste le marathon de Paris 2025, qui est le 13 avril, je crois, 13 ou 15 avril, la prépa, en fait, si tu fais une prépa de 4 mois, elle commence dans 8 mois. 8 mois, c'est genre 2 trimestres et demi. Aujourd'hui, on est 14 avril. Bah, 2 trimestres, moi, ça me parle, ce genre de choses-là. Et ça m'a fait comprendre que quand tu fais des choses pendant longtemps, bon, bah, t'es capable de te projeter un peu plus longtemps dans le futur. Donc, l'après est très, très, très intéressant. Bon, ça m'a livré, si je dois dire, en fait, ce que ça m'a appris. Cet après et la réalisation en fait d'avoir eu toute l'expérience, donc l'expérience complète du marathon, je dirais que ça m'a pris 3 trucs. Ça m'a donné envie de faire 3 trucs. D'abord, ça m'a donné envie d'arrêter de vivre une vie accidentelle. En gros, ce qu'il faut bien comprendre, je vous en avais déjà parlé, c'est que la plupart des gens, ils flottent dans leur vie. À chaque fois, j'imagine l'image d'un étron qui flotte dans une rivière. Et je me dis que c'est la plupart des gens, c'est qu'en fait, ils vont avec le courant. Si le courant va dans un sens, ils vont dans ce sens. Et si le courant va dans l'autre sens, ils vont dans l'autre sens. Ils se font porter. Et d'ailleurs, en fait, on est tous un étron en train de flotter dans un domaine de notre vie. Moi, par exemple, c'est les voyages. Les voyages, je me suis rendu compte, en fait, quand je prends les 5 dernières années, il n'y a pas beaucoup de voyages où j'ai choisi d'aller moi-même. J'ai envie d'aller à tel endroit. C'est toujours des potes qui proposent un truc et tout, etc. Donc, je flotte un peu avec le courant sur cette partie-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le marathon, ça te donne une preuve. C'est une des premières. Pour certaines personnes, en fait, c'est la première fois dans leur vie qu'ils disent je vais choisir ce truc-là, je vais le faire. C'est l'intentionnalité puissance 1000. Et c'est pour ça que ça m'a pas mal surpris quand Jordan m'a rappelé que c'était moi qui avais choisi l'objectif marathon. Je me rappelais plus, je me croyais que c'était lui. Et c'est parce qu'en fait, et vous voyez, en fait, on se rappelle même plus de qui a donné la force à qui, etc. Ça qui est génial d'ailleurs aussi, c'est que c'est l'inverse d'un jeu à somme nulle, hein, l'énergie de tes potes proches, de ton environnement. C'est que ça se duplique et tu te souviens même plus en fait qui est à l'origine de quoi. C'est-à-dire que ça fait un cercle vertueux qui est assez incroyable. Donc tu choisis quelque chose et tu le fais. Et en fait, posez-vous la question dans vos vies, c'est quand la dernière fois que vous avez fait ça? C'est quand la dernière fois que vous avez décidé il y a tel truc que j'ai pas et je vais tout mettre en œuvre pour aller le chercher. Donc ça peut devenir un peu creepy. Je sais pas, en même temps que je dis ça, en fait, je pensais genre à Macron et Brigitte. Je me disais, ça peut être aussi un truc un peu de psychopathe. Celle-là, je vais la marier. Je m'en bats les couilles que ce soit la prof et qu'elle ait 40 ans de plus que moi. Donc c'est un peu... En fait, c'est une preuve d'intentionnalité. Bon, peut-être, je pense que voilà, ça viole certainement certains principes de sentimentaux, d'amour et de comment ça se construit. Je ne suis pas sûr que ce soit un acte de conquête de cet ordre-là, mais on pourra en reparler plus tard. On n'est pas dans un podcast psychologie amoureuse. Ce qui est intéressant avec ce genre de choses-là, c'est que ça donne une confiance en soi monumentale. Quand tu l'as fait une fois, eh bien, t'as l'impression que t'es invincible. D'ailleurs, c'est un sentiment qui est faux. Hein. Et moi, la première fois que j'ai eu l'occasion de l'expérimenter, c'est quand je fais Road to 1 million. C'est surtout à ça que ça a servi. J'ai annoncé, je me suis dit, bon, bah, écoute, je vais faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça semble un peu ridicule. Aussi ridicule que dire, je vais courir un marathon alors que je cours depuis 3 mois. Et en fait, quand tu le fais, tu te dis, mais attends, mais en fait, c'est comme ça la vie. Tu peux choisir des trucs, tu te prépares, tu sacrifies et ça t'arrive. Et là, ça te débloque un truc dans ton cerveau. Et en fait, je pense que c'est la base de ce que je voulais vous dire dans mon petit manifeste. Si vous devez n'en retenir qu'une seule chose, ce serait commencer par vous saisir de vous-même et ça vous amènera là où ça vous amènera. Saisissez-vous de vous-même, et je mettrai même une autre précision, c'est avec intensité. Posez-vous la question de qu'est-ce que je veux. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous allez dans une voie dure. Faites un truc dur pendant longtemps. Donc c'est pour ça qu'aller à la salle, souvent, c'est le démarrage de pas mal d'activités entrepreneuriales. Et on se rend compte plus tard aussi qu'aller à la salle, c'est beaucoup plus facile que courir un marathon. Il faut en fait ce qui est fascinant et terrible avec les choses dures, c'est que tu as toujours envie d'en faire des plus dures à chaque fois, de passer un étape. Donc, ça m'a confirmé un truc que je savais déjà, c'est que faut pas vivre sa vie de façon accidentelle. Et d'ailleurs, c'était un des premiers épisodes de Road to 10 Million, le podcast. Il s'appelait Intentionnalité. Et je trouve que ce point-là est très très important parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent en faire preuve. Donc parmi ces. Dans l'expérience, enfin le panel d'expérience que tu peux avoir, je pense que c'est aussi très intéressant, voilà, d'aller essayer de vivre des vies non accidentelles et intentionnelles vers des choses que vous viviez pour la première fois. Dites-vous qu'il y a un cocktail explosif derrière chaque première expérience qui a nécessité sacrifice. Donc, il y en a plein d'autres qu'on pourrait entrevoir sous le même format que celle d'une prépa marathon-marathon. Un marathon, prépa marathon puis courir un marathon, ça je voulais dire. Parce que c'est là où ton cerveau, en fait, il pète des câbles parce qu'il n'a pas les repères, il n'est pas équipé, il n'a pas les récepteurs pour recevoir ce qu'on lui envoie et donc ça te fait un shot. De tu sais pas trop quoi et ensuite tu comprends. Je pense que je comprendrai peut-être un jour pourquoi j'ai passé 24 heures à chialer après le marathon, je ne sais pas. J'ai pas trop d'antécédents en plus normalement, donc c'est étrange. Voilà, donc ne vivez pas des vies accidentelles. Seconde leçon. Je vais vous parler du catalogue de la souffrance. Comment vous dire ça? Bon, si on part d'un point de base, je pense que si tu peux en fait résumer une vie à une somme d'expériences. C'est constitué d'un certain nombre d'expériences ces expériences-là, elles coûtent des trucs. Donc, tu veux voyager à New York, ça te coûte un certain prix, une burne, et tu obtiens l'expérience derrière. Donc, il y a un ensemble de choses aussi. C'est la même chose. Tu vas obtenir une promotion, bon bah tu payes le prix. Le prix c'est le sacrifice. Tu dois travailler, ça te coûte du temps, ça te coûte peut-être moins. De l'énergie, de la vie personnelle, etc. Et tout. Tu sacrifies quelque chose pour avoir des expériences. Donc, il y a un catalogue d'expériences. Et donc, il existe un catalogue sur lequel il y a les prix en euros, et il existe un autre catalogue sur lequel il y a les prix, mais en souffrance, ou alors en surmontage de peur. C'est-à-dire qu'il y a d'autres prix qui sont qui se payent au prix d'exercer des qualités soit en one shot, soit pendant longtemps. Et selon, en fait, il y a deux facteurs. C'est est-ce que tu exerces une qualité? Et plus tu exerces une qualité qui est rare et qui est puissante, et plus tu exerces pendant longtemps, plus tu as accès à des expériences de gros bâtards. C'est-à-dire tu as accès à des trucs de ouf. Et ça marche aussi dans le sens inverse, avec les défauts pendant longtemps. Donc si par exemple tu es totalement irresponsable et tu t'en bats les couilles de la loi et que tu fais ça pendant 10 ans, bon bah tu finis en prison. Et donc là, tu as eu l'expérience qui, en fait, voilà, tu as payé le prix. T'as double peine du coup parce que t'as payé le prix de peut-être que tu t'es bien amusé en étant reckless et en faisant n'importe quoi, mais t'as fini en prison. En fait, t'as eu ce que tu méritais à la fin. Dans le sens inverse, ça marche. Quand t'es par exemple quelqu'un de courageux pendant longtemps, ou alors quelqu'un de généreux pendant longtemps, bon à la fin tu te construis un network de gens qui savent que t'es un mec généreux et qui en fait te respectent de ouf, qui sont hyper sympas avec toi et tout, etc. À condition de pas avoir des trous du cul. Il y a toujours un mais. Donc tout ça pour dire que dans ce catalogue-là, le marathon, ce que tu payes, c'est de la souffrance pendant longtemps. Et derrière, ça te donne accès à un truc de ouf que tu n'aurais jamais pu vivre si tu avais regardé toutes les expériences one shot. Et en fait, où est-ce que je veux en venir avec ça? Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens, en fait, ils vivent leur vie avec le catalogue one day. C'est-à-dire... ils ne se rendent pas compte qu'il y a tout un panel d'expériences humaines qui sont cachées derrière le fait d'être capable de s'infliger de la souffrance, d'être capable de surmonter une peur, d'être courageux, d'être, etc., et d'exercer toutes ces qualités-là d'entrepreneuriat dont je vous parlais un peu avant. Tout ça, ça donne accès à des trucs qui sont des expériences uniques, auxquelles tu ne peux pas accéder. Ce n'est pas comme un voyage où tu peux te payer, bon, bah, je paye 2000 balles et je m'envole aux Maldives. c'est très différent parce que c'est des choses que tu dois payer avec ton temps, ton énergie, des trucs et enfin des trucs qui te coûtent vraiment parce que le temps c'est la ressource la plus courte, enfin la plus rare qu'on a et c'est pour ça que je pense que ce que ça m'a appris principalement c'est que vivre c'est sacrifier, c'est décider ok bon t'as un petit sablier qui tourne et qui dit bon bah Théo il va claquer dans je sais pas tant de temps, ce sable je le mets dans quel pot, bon bah là c'est 4 derniers mois je vais le mettre dans le pot marathon, je vais essayer de voir, j'ai sacrifié mon temps qui est ma ressource la plus précieuse. Et j'ai rajouté un peu de souffrance, j'ai fait ça pendant longtemps. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un truc de ouf. Et donc moi, en fait, et c'est toute la différence d'ailleurs entre gagner au loto et gagner 10 millions d'euros ou vendre sa boîte 10 millions d'euros. Là, en fait, le montant est le même, mais l'expérience associée à cet événement-là n'est pas du tout le même. Et c'est très dur à comprendre en fait. Pas pour les gens qui n'y accordent pas de valeur. Les gens qui accordent pas de valeur aux expériences, pour eux c'est la même chose. Donc en fait ils se disent bon bah je gagne au loto, tant mieux, j'ai pas travaillé les 10 ans d'avant. Mais les gens qui ont envie de vivre une vie mémorable et d'avoir des expériences de ouf, ils veulent pas ça. Ils savent que à vaincre sans peine, on triomphe sans gloire. C'est la même chose. Et donc tout ça pour dire qu'une prépa marathon, ça sert pas à être prêt physiquement, ça sert à mettre des fusées dans le feu d'artifice du jour J. C'est tout. Et oui, et potentiellement, et peut-être que tu vas courir plus vite à la fin. Mais si tu ne t'es pas préparé, tu n'auras pas le même feu d'artifice qu'un mec qui a dédié sa vie, en fait. Et tu reçois un multiple de ce que tu as mis dedans. Et donc, derrière chaque type de sacrifice qui est non monétaire et un peu difficile, il y a une leçon ou une expérience à vivre. Et donc, ce que ça m'a donné comme direction, je pense, et ça m'a reclarifié l'endroit où, enfin, ce que je voulais chercher comme type d'expérience dans ma vie, c'est je veux vivre les expériences les plus intenses, celles qui coûtent le plus cher en termes de temps. Et c'est d'ailleurs ce que je suis venu chercher, moi, en fait, à la base, hein, dans une aventure entrepreneuriale. Ça fait 4 ans que je fais Koudak et aujourd'hui, les trucs que je vis avec sont incroyables. Sont incroyables. C'est parce que c'est une compétence, disons des qualités qui sont exercées dans le temps et qui aujourd'hui me permettent de toucher les dividendes d'une décision que j'ai prise il y a quelques temps et que j'ai refait compound, j'ai tout réinvesti à chaque fois que j'ai redéveloppé des trucs. Donc quand je développe, ce que je veux dire, c'est que pas juste en argent, hein, mais quand Koudak me permet de développer une nouvelle qualité, et ben je réutilise cette qualité pour faire grossir Koudak encore plus. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'être un kiffeur, d'aimer vivre des expériences, et le fait de faire grossir très fort sa boîte. Et c'est ça que je voulais comprendre, et c'est selon moi la vraie différence entre l'entrepreneuriat, avec un A, et le mouvement bootstrap. Voilà. Donc il y a plein d'expériences, en fait, je me dis, je peux pas claquer sans les avoir vécues, c'est pas possible. Enfin, c'est des trucs, je veux savoir ce qu'il y a derrière. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, si on recoupe sur le sujet des potes avant, vous pouvez vous en faire un petit aperçu en accompagnant des potes faire ces trucs, prendre un petit bout. Et donc, dans tous les cas, comme il n'y a pas de voie sans souffrance, en fait, sublimez la souffrance. Infligez-la vous-même. Et après, ce qui est génial, c'est que ça te permet de sortir dans le monde et de te balader en te disant « Qui va me faire plus de mal que ce que je me suis fait à moi-même ?» Et en fait, c'est ça, devenir le maître de soi, je trouve. Je sais que peu importe ce que tu vas me jeter dessus, eh bien, j'aurais fait plus dur. Et potentiellement, je sais que dans Koudak, on va me jeter dessus des trucs de plus en plus durs. Donc peut-être qu'après... le marathon, ce sera plus suffisant. donc il faudra que j'aille faire des trucs encore plus durs. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je veux foncer face first dedans pour vivre ces trucs-là. Voilà. Et donc, il y a des expériences qui s'achètent, d'autres qu'il faut mériter. Et je pense que les plus belles, souvent, c'est celles qui sont méritées et qui, en plus, derrière, sont partagées. Donc, ça me met sur la voie. La conclusion de ça, c'est quoi? Donc, du catalogue des souffrances. Enfin, le catalogue de la souffrance. Et regardez le catalogue de la souffrance et prenez les expériences qui, d'abord, prennent pas longtemps, mais ensuite, prennent longtemps. Et ensuite réaliser que voilà, vivre c'est sacrifier du confort, je pense, enfin, c'est accepter de souffrir pour quelque chose, et voilà, on va terminer là cette philosophie de comptoir, mais en tout cas ça me reconfirme un truc que je vous avais déjà partagé, et je partage le troisième point, ensuite on passe à la conclusion, je vous parle de la suite, je vois un peu, c'est le troisième point que ça m'a enseigné, c'est l'importance de vivre des histoires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les histoires, c'est le véhicule des informations. Donc si je vous balance une quinzaine de chiffres comme ça à la volée, vous n'allez probablement pas les retenir. Si je vous les mets dans une histoire, c'est le numéro 2 qui rencontre le numéro 3, ils tombent amoureux, ils font un bébé qui s'appelle le numéro 4 et tout, etc. Et ben, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous en souvenir. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des méthodes mentales, je ne sais pas si vous connaissez la méthode du palais pour se souvenir des choses, c'est un truc que j'avais découvert dans un bouquin qui s'appelait « Je vais vous apprendre à intégrer HEC ». Et c'est-à-dire que tu t'imagines par exemple ta baraque de quand tu étais jeune, que tu connais par cœur, et quand tu veux te souvenir de quelque chose de dur, donc une leçon d'histoire, tu vas ranger des souvenirs dans des endroits que tu connais déjà. Donc par exemple, tu ouvres la porte et puis tu vois l'Afrique, parce que ça ressemble un petit peu au tableau que tu avais dans ton entrée où ta mère a noté qu'il fallait aller faire les courses. Et puis ensuite, tu te souviens qu'en Afrique, le voilà, il y a un président qui s'appelle tel truc, enfin qui s'appelait comme ça. Et puis il y a trois coussins sur ton canapé, c'est les trois villes importantes. Je pense à ça parce que pour les devoirs de géopolitique, je faisais ça en prépa. Pour les trucs qui étaient un peu durs. Voilà. Donc je dis, voilà, les trois coussins sont les trois villes qui sont les centres économiques. Voilà, ils interagissent de telle façon, bref. Et donc tu peux en fait construire un peu ton environnement comme tu veux. Et ce que je veux dire là-dessus, c'était quoi? C'est que ton cerveau, il encode les souvenirs comme ça. Et donc il y a plein de vies qui manquent d'histoires, qui ne sont pas vécues comme des histoires. Et pour moi, c'est ça qui fait pleurer. C'est quand tu vois déjà les gens, des gens qui te font ressentir des trucs de ouf. Et en fait, c'est toujours ces choses-là qui t'émeuvent. Oh là, émeuvent, qui te procurent de l'émotion. On va contourner. Vous voyez, c'est pas comme... Je peux... Quel est le film? En fait, Titanic, le script, je peux vous l'écrire sur un papier et vous le filer. Hein. Mais le fait d'être dans une salle de cinéma et de voir une scène très émouvante, eh bien, ça te procure les émotions. Et c'est simple, parce qu'il y a l'histoire qui est associée derrière. Et même quand tu as l'histoire sur papier, il n'y a pas... Bon, on pourrait rentrer dans toute une démonstration sur le fait que tu as besoin d'avoir tes sens qui sont impliqués aussi pour vivre des histoires. C'est aussi pour ça que le marathon est si fort, je pense, parce que ça active tous les sens. Je pensais en parler avec le cinéma, hein, qui en active aussi beaucoup. Et donc, ce qui est important, c'est de penser sa vie comme une histoire, je pense. C'est ça que ça m'enseigne. Et j'ai capté d'ailleurs aussi pourquoi je vous en avais parlé dans des épisodes précédents, c'est que je m'étais pris un petit tunnel sur des histoires de militaires. Ce que je trouve très stylé dans les histoires de militaires, donc de batailles, je vous recommande d'ailleurs la chaîne Vétérans de France. C'est un podcast, mais où tu regardes ça comme une série Netflix. C'est incroyable. Parce que c'est des histoires vraies. C'est que c'est des gens, en fait, ils racontent tous la même histoire, ils racontent l'histoire du sacrifice et de la camaraderie. Et ça, c'est le genre de choses, j'ai remarqué, c'est un autre genre de truc qui pouvait me faire pleurer. C'est des gens qui ont sacrifié pour un camarade. Ou pour quelque chose, qui ont fait preuve d'abnégation. L'abnégation, je trouve ça magnifique. Et c'est parce que l'histoire, en fait, qu'ils racontent, elle est belle. C'est une histoire qui me parle. Et ce sont toujours mes histoires préférées, c'est les gens qui sont sacrifiés pour impacter les autres. Je me répétais une phrase, je m'étais préparé à en répéter une pour le marathon la veille. C'était lead the way, donc montrer la voie. Et c'est ce truc-là qui me donne de la force. Moi, c'est un peu la maxime dont je vous ai déjà parlé avant, c'est illuminer les autres, montrer par l'exemple et montrer et en fait faire en sorte que quand je serais content, disons, si à la fin de ma vie, quand tous les gens qui vont parler à mon enterrement, ils disent bon bah ma vie elle est un petit peu mieux depuis que j'ai rencontré Théo. Je pense que ça, c'est un truc pas mal. Alors, c'est pas l'unique but. Hein. Je veux pas sacrifier ma vie pour faire des trucs bien aux autres. Et je pense que d'ailleurs, je vous ai déjà dit, hein, l'égoïsme altruiste, voilà, qui est la première, je crois, enfin, un des premiers principes de l'entrepreneuriat avec un A. C'est ça, en fait. C'est pas une invitation à sacrifier toute sa vie, à ne plus jamais vivre pour soi-même, mais à vivre des trucs tout seul très très fort et à utiliser le surplus d'émotions ou de choses que ça génère pour en donner aux autres. Donc ça, moi, je trouve que c'est un très bon alignement d'intérêt. Donc en gros, c'est ça qui me donnait de la force pendant le marathon, c'est je peux pas abandonner parce qu'il y a des gens qui me regardent. Et j'ai des gens il faut que je puisse la partager, cette expérience. Et c'est ce genre, je pense que ça doit faire partie des trucs qui m'ont fait pleurer à la fin. La volonté de porter des gens sur mon dos. Je trouve que la notion de responsabilité, elle est belle et c'est un truc que j'ai envie d'apprendre. J'ai envie d'apprendre à me dire, ok, t'arrives pas à faire un truc, c'est pas grave, je m'en occupe. Je m'en occupe pour toi. Et ça, je trouve ça magnifique. C'est la capacité à s'occuper de personnes. Voilà, tout court. Et d'aider, en fait. Donc, je trouve ça assez beau. Et c'est, en fait, c'est ça qui me donnait de la force. Et c'est avec cette histoire-là que j'ai vécu mon marathon. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut vivre 42 km. Tout le monde peut les courir. Mais il y a 54 000 histoires différentes. Je pense ça, je dis ça parce que c'est le nombre de finishers. 54 000 histoires différentes. Et il y en a peut-être qui sont merdiques. Il y en a des histoires de merde, des gens qui se sont juste dit « Oh, je viens là pour faire ma perf !» Je trouve pas que ce soit une bonne façon de vivre au moins son premier marathon. Et ça peut être une autre histoire, hein, d'ailleurs. Si je recours à un marathon un jour, ce sera peut-être en me disant « Bon, bah, j'ai envie de faire ma performance. J'ai envie de savoir ce que ça fait de passer la ligne d'arrivée en ayant fait sa performance. » Et je fais un petit aparté, d'ailleurs, aussi là-dessus, sur la musique. La musique, c'est très important pour vivre des histoires et en faire vivre aux gens. C'est parce que, en fait, il y a des artistes, donc des musiciens, qui ont réussi à ranger des émotions dans des notes, quoi, genre dans des partitions, dans des morceaux. Et c'est comme des petites je trouve pas la bonne métaphore, mais en fait c'est comme des petites capsules que vous pouvez ouvrir et vous pouvez offrir aux gens. Et en fait vous pouvez faire comprendre avec une musique ce que vous avez vécu. Et c'est pour ça que j'ai passé une semaine à essayer de trouver les bonnes musiques pour la vidéo sur le marathon. C'est parce que il y a que moi en fait qui ai cette émotion là, qui ai vécu cette émotion là, et maintenant je dois expliquer à un monteur qu'est-ce que j'ai vécu. Et le meilleur moyen de lui expliquer qu'est-ce que j'ai vécu, c'est pas de lui dire ah bah là j'étais triste, là j'ai souffert et tout, etc. C'est de lui dire voici la musique qui incarne le mieux comment je me suis senti à ce moment-là. Et donc j'ai découvert voilà l'intérêt de la musique, et je l'ai couru sans écouteurs mon marathon, parce que ça m'aurait aidé d'avoir un peu d'aide là-dessus. Et voilà. Et donc bref, tout ça pour dire qu'il c'est important de vivre des histoires, parce que j'ai réalisé aussi que c'était ce que je faisais dans un tout autre domaine avec Koudak depuis le début. Je veux vivre un truc fort, je veux que l'histoire elle soit belle, je veux que ce soit l'histoire de quelqu'un qui partait de rien, enfin qui pas non, justement, c'est pas ça. Quelqu'un qui a annoncé qu'il allait faire un million, je partais pas de rien les potes hein. Je déteste ce storytelling. Je pense que vous avez compris, je pars de rien. D'ailleurs, tous les podcasts sont écrits comme ça maintenant, de zéro à multimilliardaire. Je trouve que c'est un storytelling qui a... Justement, c'est pas une très belle histoire. Elle est belle une fois, deux fois, trois fois, mais en fait, je trouve que c'est pas une bonne façon de décrire l'expérience qu'a eu une personne de sa vie. Il y a des bien plus belles histoires à raconter que d'essayer de plaquer toujours ce même framework sur la vie de n'importe quelle personne. Je trouve qu'il y a d'autres façons d'être inspiré par quelqu'un, et si c'est uniquement ça l'histoire de ta vie, je suis passé de zéro à très riche. Bon, bah, j'en ai consommé une, j'ai consommé toutes les autres, en fait. Voilà. c'était cadeau. cadeau. Et moi-même, j'ai titré des vidéos comme ça. Hein, donc, voilà, bref. Je ne critique que les choses que j'ai faites moi-même. Hein. Donc, c'est une super maxime de vie, selon moi, d'essayer de construire sa vie comme une histoire. Et toujours se demander, OK, il y a telle difficulté, que fait le héros? Et tu essaies de faire en sorte que ta vie, elle soit racontable. Et après, t'apprends pas juste à raconter des histoires, mais à les vivre. Et c'est ça, on recoupe sur l'entrepreneuriat, se saisir de soi-même, se mettre au centre de son histoire, dans le but de la faire vivre à d'autres personnes. Parce que vous savez que les histoires sont jamais vécues uniquement par le héros. Frodon, il a Gandalf. Harry Potter, il a Dumbledore. Et en fait, voilà, les histoires, c'est juste embarquer des gens dans quelque chose. J'ai envie de construire la plus belle histoire de boîte. Avoir une boîte qui a une belle histoire et tout documenter en direct. J'ai envie que, voilà, Koudak, c'est ça ma vraie ambition. Et que si je pouvais le titrer autrement au Retour des Millions, je le titrerais comme ça. C'est créer la boîte avec la plus belle histoire de France. Ce serait pas mal comme ambition, ça. Avec, voilà, la boîte la plus entertaining. Sur un milieu qui est moins drôle. qui est le moins drôle du monde, le B2B. Voilà, donc je vous récapitule mes trois leçons principales de ces dernières parties, l'après. Donc, le catalogue de la souffrance. Ne pas vivre des vies accidentelles et construisez votre vie comme une histoire. Voilà. Donc, petite conclusion de cet épisode qui est déjà bien assez long, 1h36. Je pense que on peut résumer le marathon. Un marathon réussi à une équation simple, selon moi. C'est 4 facteurs. C'est un pourquoi profond et qui a beaucoup de sens pour vous, qui donne du sens à la course, fois une grosse prépa, vous y mettez pas mal d'intensité, fois un scénario de course incroyable, fois des proches avec qui le partager. Et quand vous avez ces 4 facteurs, vous êtes sûr et certain de vivre un feu d'artifice le jour du marathon. Et donc tout cet épisode, c'est pas forcément une invitation d'ailleurs à courir 42 km. Le message sous-jacent de ça, c'est quoi? C'est bon, tous les derniers trucs que je viens de vous dire, vivez votre vie comme des histoires, etc. Mais la matière brute de ce truc-là, la matière première, c'est de faire des trucs durs. Faire des trucs qui sont difficiles, parce que par définition, les trucs difficiles, il n'y a pas beaucoup de gens qui les font. Et bon, les histoires, pour qu'on les écoute, il faut qu'elles soient incroyables, il faut qu'elles soient intéressantes. Et c'est marrant parce que c'est pas courir un marathon qui a une histoire incroyable. C'est ce que veut dire le marathon pour toi. C'est les difficultés que t'as vécues toi, ce que t'as vécu le jour de la course. Il y a plein de gens qui ont couru des marathons, en fait. Il y a quand même 4% de la... C'est quoi, c'est 4%? 3%? 3% de la population? Bon, bref, je sais plus. 3% de la population qui a couru des marathons, c'est bien. Mais c'est pas Thomas Pesquet, quoi. Donc, je sais pas pourquoi je pense à Thomas Pesquet. Lui, c'est vraiment top... Ouais, je sais pas combien, 0,0001%. Donc, bref, tout ça pour dire que, en fait, voilà, tu peux... Les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas un truc qui est en absolu incroyable, c'est un truc qui est raconté de façon incroyable et qui est vécu de façon incroyable. En fait, ce qui est génial avec le running, c'est que tout le monde a l'occasion de vivre une histoire de ouf pendant ces runnings, juste pendant des runs. Et c'est très dur à raconter. Hein. Parfois, quand tu rentres d'un run, les gens ils comprennent pas que t'as pas juste fait 40 minutes, là tu viens de faire des fractionnés de ouf, t'as pensé à ta grand-mère qui est morte il y a 10 ans parce que t'as toutes les pensées qui sont passées par ta tête. Et donc c'est tout ça pour dire que c'est une invitation à faire des trucs durs, et le marathon c'est le truc par excellence, je pense, et le running est une façon très accessible de faire des trucs durs. Et en fait, la conclusion, pourquoi est-ce que je conclue en même temps la saison 1 du podcast que le running, c'est parce que c'est courir qui m'a fait connecter les fils sur l'entrepreneuriat. Et ça m'a fait comprendre que je faisais pas juste des trucs pour que ça rende mon aventure entrepreneuriale meilleure. En fait, ce que j'essayais de faire, c'est faire en sorte que sur mon lit de mort, je me dise, ah putain, j'ai vécu quand même. Et monter une boîte me sert dans ce sens-là. Le jour où ça me sert plus, ça me sert juste à gagner de l'argent peut-être, eh bien j'arrêterai. Bon bah les potes, quelle est la suite de l'histoire maintenant? Donc sur le podcast, bon c'était aussi l'une des meilleures décisions de ma vie, il faut être honnête, de lancer ce truc-là. J'ai l'impression que c'est, voilà, c'est le format dont j'avais besoin pour avoir l'impact sur vous. Mais vraiment, il y a 9 personnes sur 10 qui me reconnaissent dans la rue, qui me parlent du podcast, c'est assez incroyable, alors que j'ai une chaîne YouTube depuis 4 ans maintenant. Donc c'est dingo de voir l'impact que ça a sur les gens, donc je vous remercie de me donner tout ce temps d'attention là, chaque semaine. Et donc on va ouvrir la saison 2, je vais garder les trucs qui vous plaisent, ne vous inquiétez pas, les pendules ne disparaîtront pas, les actus non plus, vous serez au courant de tout, mais je suis très ouvert aux suggestions. Donc dites-moi ce que vous kiffez, ce que vous aimeriez voir. Donc il y a un petit sondage sur Spotify en bas de votre épisode, vous pouvez en profiter pour mettre 5 étoiles si ça n'est pas le cas, on va faire genre que j'ai pas vu. Vous pouvez mettre des choses que vous aimeriez bien voir dans ces épisodes. Je pense à si vous voulez que je réponde plus à des questions, que je sois plus consistant. Est-ce que vous, enfin, qu'est-ce qui vous plairait? Sur quoi est-ce que vous avez envie de m'entendre? Et qu'est-ce que, ou alors, juste, soit ça peut être des nouvelles choses, ou ça peut être des choses que vous avez déjà entendues et que vous voulez voir plus. Dites-moi, ça j'aime bien. Et en fait, après, derrière, je ferai fonctionner mon cerveau, je trouverai des idées. Dites-moi ce que vous kiffez dans ce podcast. Parce que, vous savez, je parle pendant 1h40, je sais pas quel passage vous plaît. Donc, dites-moi ça. Donc, le podcast va continuer. La saison 2 arrivera quand elle arrivera. Et maintenant, la suite sur les défis sportifs. Je pense que, bon, maintenant, ce qui est clair, c'est que jamais dans ma vie, j'arrêterai de faire des trucs durs. Donc, il va y avoir quelque chose après pour faire une belle histoire. Je sais déjà ce que c'est, hein, mais je ne vais pas vous dire. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas les histoires qui terminent par des échecs, même si c'est juste un échec de performance. Je ne crois pas que ce soit des très belles histoires où les méchants y gagnent. Donc, la réponse va arriver, et elle arrivera dans la vidéo YouTube qui sort en avril, donc restez branchés, il va falloir vous la taper. C'était Théo, merci beaucoup d'avoir écouté la saison 1 de Road to 10 Million. C'était un plaisir de la partager avec vous, j'espère que vous avez scalé vos vies. Je vous donne rendez-vous dans la saison 2.